J'ai reçu des pouvoirs pour cette séance. Je représenterai en ce qui me concerne Benoît Moitié. Pierre Marandon est représenté par Christine Mazzi, Magali Carbonel par Christian de Mongin, Marie-Claire Bilbord par Daniel Maire, Damien Gaudier par Rémi Grand, Nicole Lesage par Jean-Michel Lorca, Aline Triolet par Pascal Marniquet, Maurice Attanus par Michel Brixy, Hélène Devilliers par Édouard Abon et Hélène Perrin par William Richard. Chers collègues, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous un nouveau conseiller municipal en la personne de Youri Philippe, qui sera en outre le Benjamin de notre Assemblée, ce qui va filer un coup de vieux à ceux qui jusqu'ici étaient Benjamin et pouvaient s'enorgueillir partout d'être les Benjamins des conseils. Ben, c'est fini. C'est désormais donc Youri qui est Benjamin de notre Assemblée. Il lui reviendra donc la plupart du temps de tenir le rôle de secrétaire de séance, prenant ainsi la relève d'Astrid, que je remercie pour avoir occupé cette responsabilité pendant quelques années. C'est la roue tourne. T'es pas encore doyenne, donc ça va. Mais... Donc, bienvenue, Youri. Alors, je vous invite à désigner un secrétaire de séance. L'usage veut que le plus jeune membre de l'Assemblée remplisse cette fonction. Je vous propose donc de désigner Youri Philippe comme secrétaire de séance. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Premier rapport, le rapport numéro 2 concerne l'élection d'un adjoint au maire, puisque vous savez qu'Annie Loyau, qui a quitté notre région, a démissionné et s'est exprimée lors du dernier conseil. Chers collègues, suite au départ d'Annie, nous allons procéder à l'élection d'un nouvel adjoint. Mais avant de passer aux opérations de vote, il faut d'une part de décider de pourvoir le poste vacant, d'autre part de renoncer à l'application du dernier alinéa de l'article L2122-10 du Code général des collectivités territoriales permettant de nommer le nouvel adjoint au même rang que l'adjoint démissionnaire. Ainsi, le nouvel adjoint sera le 10e, les autres adjoints à partir du 3e remontant d'un rang. Y a-t-il des oppositions ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Conformément à l'article L2122-7-2, quand il n'y a qu'un poste d'adjoint à pourvoir, celui-ci est élu selon les dispositions de l'article L2122-7, c'est-à-dire au scrutin uninominal à bulletin secret et à la majorité absolue lors des deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. Au nom de la majorité municipale, je vous propose la candidature de Catherine Crozat. Y a-t-il d'autres candidats ? Pas d'autres candidats. Les bulletins sont donc sous votre sous-main et il nous faudra deux scrutateurs. En général, le conseiller le plus âgé et un conseiller d'opposition. Donc, si. Oui, monsieur Angers.
Oui, monsieur le maire, chers collègues. Notre groupe ne participera pas au vote. Ça n'est pas à l'encontre de madame Crozat. N'y voyez pas une quelconque hostilité. Simplement, ça simplifiera les opérations de vote.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous désigner un membre de l'opposition pour superviser les opérations électorales ? Et puis, on va demander au secrétaire, à Youri, de faire la partie, donc aller décompter les voix, et puis Marc Lefebvre. Ouais. Ah, je sais pas, j'ai vu que un élan spontané de votre voisin vous a désigné. Oh, c'est pas non plus une... C'est pas une mission casse-cou. Alors, je vous invite à remplir le bulletin situé sous votre... j'ai pas de stylo. Et on va pouvoir faire circuler l'urne.
Ceux qui ont le pouvoir...
Moi, je dois voter deux fois.
Eh bien, oui.
Oui, je rappelle que ceux qui ont un pouvoir votent deux fois. Hein. Vous avez entendu ceux qui ont un pouvoir. Hein. Est-ce que vous voulez que je rappelle les élus qui ont un pouvoir ? Alors, ont un pouvoir Franck Leroy, Christine Mazzi, Christian de Mongin, Daniel Maire, Rémi Grand, Jean-Michel Lorca, Pascal Marniquet, Michel Brixy, Édouard Abon et William Richard.
Oui, c'est mieux. Non, il ne faut pas que ce soit reconnaissable.
une fois. Pour Catherine Croza, poste d'adjoint. T'as un truc en dessous de ton sous-main. T'as pu voter ? Est-ce que tout le monde a voté ?
Oui.
Est-ce que tout le monde a voté ? Personne ne demande encore à voter ? Donc, j'invite Marc Lefebvre et Yuri. Yuri, tu veux bien aller là-bas pour dépouiller avec Marc Lefebvre ? Scrutateur, on en a déjà deux.
Eh bien oui, il en faut trois. C'est les deux scrutateurs et un. D'accord.
Non, pas de suspense.
Non, tu n'avais pas de pouvoir, me semble-t-il.
Hélène,
non,
hein. C'est pas moi.
Non, Hélène, c'est pas toi.
On fait signer ça, mais le 28 mai, j'étais pas là, moi. Donc, je dois peut-être pas signer. Je n'étais pas au conseil. C'est le 28 mai, tu l'as fait. Je vais parler. Il y a un bar, mon truc.
Thank you.
Bien, à l'issue d'un suspense insoutenable, je proclame donc les résultats de l'élection d'un adjoint. Nombre de bulletins 31, nombre de bulletins nuls 0, nombre de bulletins blancs 4, nombre de suffrages exprimés 27, et donc a obtenu 27 voix Catherine Crozat, qui est donc élue au poste d'adjoint au maire. Et je la félicite et j'en profite pour lui remettre une écharpe d'adjoint. Alors, dans la continuité de cette élection, nous avons à procéder à plusieurs remplacements au sein des conseils d'administration d'un certain nombre d'organismes. Je vous propose donc de remplacer Annie Loyau au sein de la Caisse des écoles du Club de prévention et de Plurial Novilia. Pour les trois désignations en question, il est proposé de déroger au principe du scrutin secret comme l'y autorise l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Êtes-vous d'accord? Sinon, on est obligé de faire un scrutin secret, je pense que personne n'y tient trop. Donc, j'en déduis qu'il y a l'unanimité pour que ce vote ait lieu sans scrutin secret. Pour le poste de suppléant au sein du conseil d'administration de la Caisse des écoles, je vous propose la candidature de Catherine Crozat. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Vote contre? Abstention? Catherine Crozat est élue. Pour le poste de représentante au sein du conseil d'administration du club de prévention, je vous propose également la candidature de Catherine Crozat. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Vote contre? Abstention? Élection de Catherine Crozat. Pour le poste de représentante au sein du conseil d'administration de Plurial Novilia, je vous propose la candidature de Catherine Crozat. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Pas de vote contre, pas d'abstention. Et c'est donc une nouvelle élection. Concernant maintenant le CCAS, à la suite du départ de 5 administrateurs du conseil d'administration du CCAS, il convient de procéder à une nouvelle désignation des membres issus du conseil municipal. Alors pourquoi 5 démissions? C'est parce que, étant donné qu'au CCAS, on se doit d'avoir une représentation proportionnelle, il faut nécessairement que toute l'élection soit refaite. Et je vous propose donc de procéder à nouveau à cette élection en application des articles L123-6 et R123-8 du même code. Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Chaque conseil municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges sont non pourvus, le sont par les autres listes. Au nom de la majorité municipale, je vous propose la liste suivante. Candy Lheureux, Catherine Crozat, Magali Carbonel, Abida Sharif et Marie-Claire Bilbor. Je crois que c'était Madame Perrin qui était candidate sortante. Je ne sais pas si elle est candidate.
Oui, on maintient les candidatures telles qu'elles étaient présentées
d'accord.
À l'origine. Je crois Hélène Perrin, effectivement, titulaire.
Oui, il me semble
et
bien.
William Richard, suppléant.
Y a-t-il d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats... alors, il faut... bulletin secret, là?
Oui. Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va marquer tous les noms?
Non.
Ils sont déjà préimprimés.
J'ai mis les noms... Il y en avait deux, je vois qu'il y en a qu'une.
Je ne comprends pas là, pourquoi j'en ai un comme ça et deux autres. Il y en a un autre derrière. Donc vous avez deux listes, la liste présentée par la majorité municipale et la liste présentée par Épernay Avenir. Et donc on devrait normalement, dans le calcul, reconstituer la même représentation proportionnelle qu'au début du mandat.
Je devais présenter, c'est Christine qui l'a présenté. C'est sur les fourrières automobiles.
Alors, je vais profiter des opérations de vote pour traiter du dossier suivant qui ne donnera pas nécessairement lieu à un vote s'il n'y a qu'un candidat. En l'occurrence, Annie Loyer a siégé dans deux commissions, la commission cohésion sociale et éducation et la commission administration générale et finances. Je vous propose qu'elle soit remplacée pour la commission cohésion sociale et éducation par Catherine Crozat et pour la commission administration générale et finances par Yuri Philippe. J'imagine que vous ne voyez pas d'inconvénient à cette substitution compte tenu de la démission d'Annie Loyot. Pas d'opposition. Donc, Catherine Crozat est donc membre de la commission cohésion sociale et éducation et Yuri Philippe, membre de l'administration de la commission administration générale et finances. Et avant de parler du compte administratif, qui sera le gros morceau de ce débat, je vous propose de terminer les opérations de vote en cours. Ne mettez pas la majorité municipale. Hein. Ah bah. On n'a pas tout à fait le même contexte politique, en tout cas. Pas encore. Donc je vais inviter Marc Lefebvre et Yuri à s'isoler quelques instants, le temps de comptabiliser les bulletins et de prononcer et de faire le dépouillement. Alors, attends, elle va vous...
C'est l'adversaire des Français. Le match, le vainqueur des deux sera. Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, on peut proclamer après. Hein.
Claude Maréchal qui est arrivé entre temps. Qui n'était pas arrivé pour la première élection, mais qui est arrivé. Il est arrivé discrètement, mais on l'a quand même repéré. Bon, on va poursuivre nos débats et puis évidemment on prononcera les résultats une fois que les calculs des plus forestes ou des plus fortes moyennes auront été faits. Nous arrivons donc au rapport concernant le compte administratif 2017. C'est les rapports qui vont les 2.1, 2, 3, 4, 5 et 6. Conformément aux dispositions contenues dans le Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal délibère sur les comptes administratifs qui lui sont annuellement présentés par le maire. À cet effet, je vous propose de passer à l'étude des comptes de l'exercice 2017 et je vous invite à bien vouloir élire un président de séance. En effet, si le maire peut présenter les comptes et répondre aux questions des conseillers municipaux, il ne peut être président de la séance au moment de cet examen. Je vous propose donc la candidature de Michel Brixy, doyen de notre Assemblée ce soir. Je mets aux voix cette candidature. Pas d'opposition, pas d'abstention. Michel Brixy est élu à la présidence et je lui laisse la parole.
Voilà. Mesdames, Messieurs, pour vous présenter les comptes administratifs de 2017, je vais passer la parole à Monsieur le maire pour l'exposé introductif, puis à Madame Mazzi pour une présentation synthétique avec diaporama. Monsieur le maire.
Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le compte administratif que nous examinons ce soir est le fidèle reflet de la façon dont a exécuté le budget 2017 qui avait été adopté par le Conseil municipal. En cela, c'est un document presque plus technique que politique, puisque il va résumer grosso modo les actions qui avaient été votées dans le cadre du budget primitif, lequel avait donné lieu à un débat important entre nous, comme chaque année. Il ressort de ce compte administratif quelques points saillants. D'abord, un excédent de l'exercice de 1 550 000 euros. Des dépenses d'équipement atteignant le montant d'un peu plus de 10 millions d'euros, en l'occurrence 10 380 000 euros. Une pression fiscale stable pour la 12e année consécutive et une capacité de désendettement qui s'établit à 4,24 années. Je rappelle que la capacité de désendettement mesure le temps nécessaire à la ville pour rembourser son encours si elle y consacrait toute sa capacité d'autofinancement. Ces résultats sont atteints dans un environnement qui n'était pas les plus favorables. L'État a en effet continué à ponctionner notre collectivité en réduisant le niveau global des dotations versées, même si le rythme de cette baisse s'est objectivement ralenti. Ainsi, en 2017, pour notre commune, hors impact de la fusion qui a concerné notre intercommunalité, la DGF a été réduite de 626 000 euros. Dans ce contexte, la collectivité a mis l'accent sur les économies de fonctionnement par rapport aux sommes prévisionnelles inscrites au budget primitif. C'est ainsi qu'un montant de 1 700 000 euros a été économisé au cours de l'exercice. Une partie importante de cette somme, soit 871 000 euros, provient d'économies sur nos charges de gestion. Les charges de personnel ont été également maîtrisées, puisque nous avons une réalisation de 97% sur le budget charges de personnel, soit une économie de 479 000 euros. Par ailleurs, l'an dernier, certaines de nos recettes ont été plus importantes que prévues, ce qui, évidemment, nous a quelque peu soulagés. Seule bonne nouvelle en matière de concours de l'État, la refonte des critères présidant au calcul de la DSU, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, qui a conduit à un montant de 970 333 euros, soit 73 000 euros supplémentaires, mais qu'il faut rapprocher des 626 000 euros que j'évoquais tout à l'heure, que nous perdons au titre de la DGF, donc le solde est évidemment négatif. En matière immobilière, signe d'un marché actif, la taxe additionnelle aux droits de mutation a permis une recette supérieure au provisionnel de 120 000 euros. Enfin, les droits de stationnement ont été supérieurs de 41 000 euros au montant prévu. L'inscription retenue pour le BP 2017 ayant été particulièrement prudente au regard de la progression, qui se poursuit d'ailleurs, du nombre d'abonnements souscrits. S'agissant des dépenses d'équipement de la commune, elles ont représenté un budget global de 10,38 millions d'euros en 2017. Depuis le début de l'actuel mandat, ce sont donc 39 230 000 euros qui ont été investis par notre collectivité. Et Christine, dans un instant, vous présentera les principales opérations réalisées l'an dernier. J'insisterai à mon niveau sur les plus importantes. D'abord, le futur musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. C'est le projet majeur de ce mandat. Il représente sur l'exercice un montant de 2,8 millions d'euros, dont 1,5 million pour le centre de conservation. Je reviendrai sur ce projet majeur de l'actuel mandat un peu plus loin dans mon intervention lorsque j'évoquerai l'affectation du résultat. Le budget 2017 a également financé des travaux de voirie à hauteur de 1,5 million, mais aussi des interventions sur des monuments sparnassiens, dont les églises Notre-Dame et Saint-Pierre-Saint-Paul ou le théâtre Gabriel Dorzia, pour un montant global de 515 000 euros. En matière d'aménagement urbain, 609 000 euros ont été consacrés aux travaux hydrauliques de la future phase du quartier Rosemont, 421 000 euros à la réalisation de la coulée verte, et s'agissant de l'ORU, 465 000 euros ont contribué au financement de la démolition puis de la transformation de l'ancien linéaire commercial Le Bernon, qui marque l'achèvement de cette opération de grande ampleur. Un certain nombre d'entre vous étaient présents ce week-end à Bernon. Ils ont pu constater que les travaux étaient bel et bien finis sur ce quartier, que certes tous les problèmes ne sont pas réglés, il va de soi qu'il serait prétentieux de l'affirmer, qu'en tout état de cause, s'agissant du cadre de vie, tout le monde s'accordait à reconnaître qu'il avait grandement bénéficié des investissements qui avaient été consentis sur ce quartier. Et j'ai rappelé, et je le rappelle à nouveau, que l'ensemble des travaux qui ont été financés sur le quartier de Bernon depuis grosso modo une douzaine d'années ont, à ma connaissance, toujours été approuvés à l'unanimité des différents conseils municipaux. Preuve s'il en est que sur les bancs de notre Assemblée, nous sommes toutes et tous animés par une volonté d'offrir à nos habitants une qualité de vie de qualité, et que le travail qui a été produit par les équipes d'architectes, par les maîtres d'œuvre, a été salué par toutes et tous. Dans le domaine social, deux chantiers portés par le CCAS sont à souligner. D'abord, la résidence Galice, pour laquelle il a été mobilisé une subvention d'équipement de 590 000 euros sur l'exercice, et les travaux d'aménagement du panier solidaire qui regroupe notamment l'épicerie sociale aujourd'hui ainsi que les Restos du Cœur, qui représente un investissement de 175 000 euros. Le déménagement du conseil de prud'homme à la mairie de quartier de Bernon a également nécessité les travaux d'aménagement préalables pour un montant de 106 000 euros. Par ailleurs, 305 000 euros ont été consacrés à des investissements dans nos écoles, 192 000 euros aux équipements sportifs et 144 000 euros à l'achat de matériel pour les interventions de propreté. L'ensemble de ces investissements a été réalisé tout en maintenant le caractère particulièrement sûr de notre dette, tant dans sa nature, dans la nature des emprunts qui la composent que de son montant global. Notre encours est aujourd'hui de 35 millions et notre capacité de désendettement s'établit, comme je l'indiquais tout à l'heure, à un peu plus de 4 années en 2017, soit très en dessous du seuil des années qu'il est recommandé de ne pas dépasser. Ce seuil est couramment évoqué aux alentours de 8 années. Donc on est grosso modo très en dessous du seuil d'alerte, ou en tout cas du seuil de vigilance, pour plus exactement. Nous pouvons par conséquent parler d'une gestion particulièrement prudente et responsable de la dette. S'agissant de l'excédent du budget 2017, après adoption du compte administratif dans un instant, je l'espère en tout cas, je vous proposerai d'affecter ce solde au bénéfice du budget 2018, l'excédent pouvant venir évidemment compléter des actions inscrites au budget 2018. Les opérations ainsi financées seront nombreuses et variées. Je n'évoquerai d'un mot que les principales. Tout d'abord, comme annoncé en février dernier, l'essentiel de l'excédent 2017 sera consacré au chantier du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Cette affectation représentera un montant de plus d'un million d'euros, pour être précis. Le centre de conservation maintenant terminé, le chantier de rénovation et de réaménagement du château Perrier a achevé sa phase de préparation pour entrer dans celle des travaux. Je vous proposerai d'ailleurs prochainement une visite du centre de conservation, parce que c'est un investissement qui, certes, se voit extérieurement, mais qu'il est intéressant de bien comprendre dans son fonctionnement. C'est un équipement qui est indispensable à la réalisation du château Perrier et du déplacement du musée au château Perrier. Ces investissements, ces travaux permettront à la fois de ressusciter au château Perrier un important monument historique sparnassien et de doter notre ville d'un musée moderne qui constituera d'abord un hommage à l'identité champenoise, ensuite évidemment à ce qui fait la richesse de notre fonds historique, de notre fonds muséal, à travers des collections d'archéologie, mais également de remarquables collections liées au Champagne. Avec le ballon captif inauguré à la fin de cette semaine, le musée renforcera également l'attractivité des Pernets, en particulier dans le domaine touristique. Par ailleurs, des crédits seront également consacrés au projet d'aménagement d'un nouvel accueil de jour pour permettre son déménagement du site qui le peut actuellement dans la cour de l'ancien palais de justice. Sa future implantation rue de Verdun passe par la démolition préalable d'un bâtiment vétuste pour un montant de 45 000 euros, qui est un bâtiment appartenant au patrimoine communal qu'on avait un moment songé à réhabiliter, mais le piètre niveau qualitatif de ce bâtiment nous a fait opter pour une solution beaucoup plus radicale, à savoir sa démolition et la reconstruction d'un espace pour l'accueil de jour, ce qui nous permettra une plus grande accessibilité du bâtiment notamment. Vous savez que les contraintes en la matière sont extrêmement fortes. L'affectation du résultat 2017 servira également au financement, toujours cette année, de différentes actions, parmi lesquelles des subventions complémentaires à des associations locales, dont une partie fera l'objet d'un vote lors de ce conseil. On examinera ça dans un instant. L'achat d'un dôme actuellement positionné sur le site du ballon captif, mais qui a vocation à compter de l'automne prochain à accueillir des activités dans le cadre de manifestations municipales, en particulier des activités de fin d'année notamment. La cotisation de la ville également au groupement d'intérêt public InnoBioEco, formé avec les territoires de Châlons et Reims, pour piloter notre candidature conjointe à un appel à projet national dans le domaine de la bioéconomie et l'agriculture du futur, mais aussi plus prosaïquement, l'anticipation de la reconstitution de notre stock de sel de déneigement pour l'hiver prochain. Il nous faut régulièrement veiller à ce que, avant l'hiver, nos stocks soient à niveau, de manière à ne pas être surpris en période hivernale et de ne pas être obligé de courir un peu droite à gauche chercher du sel qui, comme par hasard, à ce moment-là, est beaucoup plus cher que quand on peut le stocker en amont. Bien encore, l'accueil en lien avec le comité Champagne de la 25e édition du festival national Euno Vidéo qui sera inauguré cette semaine à Épernay. Enfin, pour un montant de 76 200 euros, nous équilibrerons les créances dues à la collectivité sur la période 2007 à 2018 et dont le caractère irrécouvrable sera soumis prochainement à l'examen du conseil municipal. Avant de passer la parole à Christine Mazzi, je voudrais remercier pour leur implication l'ensemble des élus et de nos équipes administratives, en particulier les services des finances qui, comme chaque année, effectuent un travail remarquable. Et le tout dans un délai qui n'est pas toujours évident à tenir. J'ajouterai que les éléments essentiels de ce compte administratif démontrent d'abord une gestion saine, rigoureuse et responsable. Ensuite, une action volontariste au service de l'amélioration du cadre de vie des habitants. Et j'en veux pour preuve tous les commentaires que nous avons pu entendre samedi dans le quartier de Bernon, mais je pense que d'autres quartiers seraient à même de se féliciter de l'action qui est menée. Enfin, une dynamique économique et touristique qui démontre le bien fondé de nos orientations. Voilà, Monsieur le Président, pour le petit propos introductif que je souhaitais délivrer.
Avez-vous des observations ou des explications à demander à Monsieur le maire ?
On peut peut-être passer d'abord à la présentation de...
Ah oui, c'est exact.
Oui, merci. Donc, je vais vous présenter quelques slides concernant ce compte administratif 2017. Donc, sur ce premier slide, on remarque donc en haut à gauche du tableau, le rectangle rouge correspond au résultat de clôture après reste à réaliser. Donc, on remarque que ce résultat est excédentaire de 1 552 000 euros. C'est la différence entre les dépenses qui se situent sur la gauche et les recettes qui se situent sur la droite. Reste à réaliser inclus. Ce différentiel se décompose d'une part par un excédent de fonctionnement après reste à réaliser de 5 157 000 et d'un déficit d'investissement également après reste à réaliser de 3 600 000 euros. Les prévisions budgétaires, bien évidemment, sont équilibrées en dépenses et en recettes. Le résultat d'exécution découle des écarts entre les prévisions et leur réalisation. En dépenses, l'exécution ne peut être qu'inférieure aux prévisions, elle va donc générer un excédent. Au compte administratif 2017, aussi bien en fonctionnement et en investissement, 2,5 millions d'euros de crédits n'ont pas été consommés en dépenses. Et en ce qui concerne les recettes, 923 000 euros ont été non perçus en investissement. Donc sont mentionnées dans ce graphique les écritures d'ordre qui se situent en bas en gris, qui correspondent en fait aux amortissements. Donc ce sont des écritures internes qui sont équilibrées entre les deux sections, puisqu'elles sont sans impact sur le résultat global. Toutefois, l'analyse de l'exécution qui va suivre ne portera que sur les écritures réelles, donc hors ces écritures d'ordre, puisque seules les écritures réelles sont significatives des charges et des produits qui sont liés à l'activité et à la politique de notre collectivité. Donc nous allons commencer par regarder la section de fonctionnement, notamment les recettes réelles de fonctionnement. Donc ce graphique présente les principaux postes de recettes par chapitre comptable, donc en orange, en ce qui concerne les bâtons. En orange, donc, nous avons les volumes 2016, en vert clair, les volumes 2017, et nous vous avons rappelé en vert foncé les crédits ouverts en 2017, donc le budget prévisionnel. En 2017, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 44 200 000 euros, contre 43,3 millions en 2016. Donc, parmi ces recettes, la principale ressource reste bien sûr les impôts et taxes, que l'on trouve en haut du graphique, qui représente 72% des recettes globales. Ensuite, si l'on redescend, les dotations et participations, qui représentent 18% des recettes réelles de fonctionnement. La répartition de ces recettes réelles de fonctionnement ont été modifiées par l'élargissement de notre PCI et la transformation en communauté d'agglo. La ville a donc transféré ses dotations et sa fiscalité professionnelle à l'agglo au travers d'un pacte fiscal qui est bien sûr neutre pour le contribuable, puisqu'on parlera de compensation, hein, d'attribution de compensation, donc attribution de compensation pour compenser donc le résultat global est neutre pour notre collectivité. Globalement, les recettes réelles de fonctionnement sont au niveau des prévisions, soit 100%. Donc sur ce graphique suivant, en haut à gauche, nous voyons la répartition des impôts et taxes par nature de recettes. Et en bas à droite, l'évolution de ces mêmes recettes depuis 2012. Donc vous voyez apparaître en orange ces fameuses attributions de compensation. Donc c'est un montant qui est figé puisqu'il a été calculé à un instant T par rapport au transfert de certaines charges. Donc par rapport à 2016, bien sûr, il augmente de 12%, ce qui est justifié par le montant des attributions de compensation. Épernay Agglo, comme vous le savez, a harmonisé les taux sur son territoire, ce qui a eu pour conséquence une augmentation des taux des communes de l'ex-CEPC et une diminution des taux des communes de l'ex-CCRV. Donc pour ce faire, et pour garder une pression fiscale identique sur le contribuable, la ville a diminué ses taux communaux, ce qui a été compensé à hauteur de 423 000 euros par l'agglomération au travers du pacte fiscal dont je vous ai parlé précédemment.
Et tout ça s'est fait évidemment à l'euro l'euro.
À l'euro l'euro. Il n'y a aucun.
Pour l'ensemble des communes de la commune.
Pour l'ensemble des communes. Ça a été un énorme travail qui a été effectué par la CLECT. Donc la DGF 2017, qui est le trait bleu, est en diminution au titre de la fusion. Donc on a matérialisé en fait cette baisse de la DGF, ce qu'elle aurait dû être et ce qu'elle est réellement suite à la fusion. Et donc la différence entre les deux, c'est les attributions de compensation qui sont reversées. Donc 393 400 euros correspondent à la contribution au redressement des finances publiques, 195 000 euros qui correspondent à l'écrêtement de 3% qui est appliqué aux communes dont le potentiel fiscal est supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen, et 38 000 euros qui sont relatifs à la baisse de population. C'est ce qui explique donc la baisse de notre DGF. Les compensations fiscales, c'est le trait rouge. Les compensations fiscales augmentent de 750 000 euros. Alors, pour mémoire, elles augmentent de 750 000 euros, mais elles reviennent au niveau de 2015, puisque en 2016, pour mémoire, il y avait eu une suppression de l'exonération accordée aux personnes de plus de 60 ans, veufs ou veuves, au niveau de la taxe d'habitation. Cette exonération a été réinstituée sur 2017. Et donc, évidemment, c'est ce qui explique ce retour par rapport aux valeurs de 2015. Les autres participations, donc le trait vert qui se situe tout en bas du graphique, elles évoluent de 45%, donc une augmentation. Cette évolution est liée aux participations des partenaires sur les projets municipaux, notamment la participation de la CAF qui augmente de 317 000 euros par rapport à 2016. Idem pour le fonds de soutien aux activités périscolaires. Également une aide de la région pour les habits de lumière. Donc cette contribution à la réduction des comptes publics en 2007 était de 393 000 euros. Depuis 2014, le montant cumulé s'élève à 2,3 millions d'euros. Alors en ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, donc qui s'élèvent à 37 200 000 euros, donc c'est les principales dépenses, comme vous le voyez sur le graphique, pour à peu près, on va dire, 50%, ce sont les charges de personnel. Elles augmentent de 1,12%. Elles sont justifiées notamment, souvenez-vous, puisqu'en 2016, il y a eu un nouveau régime indemnitaire. Donc en 2017, la collectivité a dû supporter à la fois l'ancien régime indemnitaire, le RIA, pour l'année 2016, et puis pour l'année 2017, le passage au RIFSEP. Ce qui fait que sur 2017, nous avons eu à supporter deux régimes indemnitaires qui se sont superposés, ce qui explique cette augmentation, qui est de l'ordre de 260 000 euros. Et à ce sujet, c'est quelque chose que l'on retrouvera lors du prochain compte administratif, puisque à l'heure actuelle, toutes les catégories d'agents ne sont encore pas éligibles au RIFSEP, donc on retrouvera cette superposition l'année prochaine. Ensuite, les charges de gestion qui représentent en jaune fluo, 25% des dépenses réelles de fonctionnement. Donc globalement, les dépenses. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres dépenses sans rentrer dans les détails. Donc il y a les autres charges de gestion. Hein. Donc ce sont notamment les subventions aux associations. Donc globalement, les dépenses réelles de fonctionnement non consommées s'élèvent à 1,7 million d'euros. Donc elles se répartissent de la façon suivante, 575 000 au titre des charges de gestion courante, pour une réalisation à 94% du budget, 479 000 euros au titre des charges de personnel, pour une réalisation à 97% du budget, et 296 000 au titre des autres charges de gestion, pour une réalisation à 96% du budget. En ce qui concerne les charges exceptionnelles, On note une réalisation seulement à 70% de budget. Cela s'explique notamment par l'inscription au budget d'un montant de TVA concernant le contentieux de TVA qu'il y avait avec la zone Terre Rouge et qui, en fait, a été inscrite par la trésorerie comme une écriture non budgétaire. Alors, en ce qui concerne l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, la baisse constatée sur les charges de personnel, donc en bleu, est justifiée principalement par les services communs, puisque 29 agents de la ville ont été transférés à l'agglo. Par contre, la ligne en dessous, qui s'appelle charge de gestion en jaune, elle comprend également, on a une augmentation, puisque le transfert des charges de personnel s'effectue à ce niveau-là, c'est-à-dire ce qui n'a pas été, ce qui n'est plus considéré comme des charges de personnel au niveau rémunération est intégré dans les charges de gestion puisque la ville, ou en tout cas l'agglo, refacture à la ville le montant des charges qui sont liées au personnel transféré. Alors, en ce qui concerne les effectifs de la ville, nous avons, puisque là nous devons parler en équivalent temps plein, 422 équivalents temps plein, dont 402 en poste permanent et 20,43 puisqu'en équivalent temps plein on arrive avec des chiffres à virgule, sur des postes non permanents. Le budget principal, c'est-à-dire la ville, concentre 98% des postes en équivalent temps plein. Le reste, c'est-à-dire 2%, est réparti sur les budgets annexes que sont les parkings et le camping. Donc, les emplois permanents, comme le montre le cône, sont occupés à 77% par des agents de catégorie C, 14% par des agents de catégorie B et 8% par des agents de catégorie A. Et à noter que, comme on le voit sur le graphique sur les camemberts qui sont à droite, les trois quarts des effectifs relèvent des filières techniques et administratives. Hein, c'est le mauve et le bleu. Alors, si l'on s'intéresse maintenant au budget annexe, donc le montant des dépenses réelles des budgets annexes, donc je vous rappelle que sont les cellules commerciales, le chauffage urbain, les parkings et le camping, est de 1 700 000 euros pour un budget global de 1 900 000 euros. Alors, en ce qui concerne le chauffage urbain, le budget est en hausse de 5% par rapport à 2016. Cela s'explique. Alors, même si nous avons une consommation en baisse qui a été liée à un hiver plus doux, mais la tarification du gaz a augmenté, ce qui explique globalement cette augmentation. En ce qui concerne le parking, on note une augmentation, toujours par rapport à 2016, de 7% et un taux de l'exécution de 83% du budget. La variation par rapport à l'année précédente s'explique par le paiement de la charge de la dette qui était liée à l'emprunt de 3 millions contractualisé pour les rénovations du parking centre-ville. Et en ce qui concerne le camping, les dépenses sont en hausse de 11% par rapport au réalisé 2016, avec un taux d'exécution de 96% du budget. Cette augmentation s'explique par divers travaux et le paiement de la redevance déchets pour 5 000 euros, de la surveillance et puis une intervention sur un portail qui a dû, un moteur de portail qui a dû être changé. Alors, en section investissement, pour la ville et ses annexes, on trouve en section d'investissement, outre les travaux et les équipements, bien sûr, les subventions et les dotations qui sont liées à ces travaux, ainsi que les mouvements qui sont liés à la dette, la contractualisation des emprunts et le remboursement du capital. Donc, les dépenses réelles d'investissement sont constituées pour l'essentiel par les dépenses d'équipement que l'on trouve, donc ce sont les deux lots, on va dire, du haut, donc subvention d'équipement versée et les dépenses d'équipement, et le remboursement du capital de la dette qui se trouve en bas du graphique. Les dépenses d'équipement 2017 sont de 18 700 000 euros, dont 8,3 millions de reports. Elles sont constituées des travaux que nous réalisons en direct et des travaux que nous finançons au travers des subventions d'équipement. Un certain nombre de travaux vous a été présenté précédemment par M. le maire. Le remboursement de la dette en capital varie bien évidemment en fonction du profil de remboursement des emprunts et il est réalisé bien évidemment à hauteur de 100%. En ce qui concerne les recettes réelles d'investissement, avec report, donc ces recettes réelles d'investissement d'un montant de 11 800 000 euros plus 3 400 000 euros de report sont constituées par les emprunts, que l'on trouve, vous voyez le chapitre 16, les emprunts pour un montant de 5 700 000 euros, dont 4 400 000 euros de nouveaux emprunts souscrits et 1 300 000 euros de report pour la ville et pour les cellules de Bernon. Les subventions d'investissement qui sont liées au projet d'investissement s'élèvent à 2 340 000 euros réalisés et 1 900 000 euros en report. Et parmi les subventions qui ont été encaissées en 2017, nous avons 638 000 euros qui concernent les participations sur le centre de conservation, 443 000 euros qui sont liés à la poursuite du versement lié aux opérations de l'ORU de Bernon et 297 000 euros de participation des amodiataires concernant les travaux du parking centre-ville. Donc, nous avons également des dotations et des fonds divers et des réserves. On retrouve donc dans ce chapitre l'affectation obligatoire du résultat 2016, 4 900 000 euros et 75 000 euros de taxes d'aménagement. Les crédits des cessions, eux, ne donnent pas lieu à réalisation, donc ce qui explique qu'il n'y a pas eu de recettes à ce niveau-là. Donc si maintenant nous passons aux dépenses d'équipement de la ville et de ses annexes, le montant de nos dépenses d'équipement, comme ça vous a été précisé précédemment, est de 10 380 000 euros. Donc ce graphique, puisque nous avons fait un retour depuis 2009, ce graphique illustre la politique volontariste de notre ville à maintenir un niveau d'équipement important, malgré la baisse de nos dotations et couplé à l'augmentation du prélèvement par l'État. Je tiens à préciser que le financement de nos équipements en 2017 se fait pour 34% par de l'autofinancement, 23% par des subventions et 43% par de la dette. Donc pour illustrer quelques travaux, certains vous ont été présentés tout à l'heure, avec des images c'est toujours plus parlant. Donc le centre de conservation du musée. Donc afin de stocker les pièces du musée, comme ça vous a été rappelé, le centre de conservation a été, on va dire, aménagé. Le montant des travaux, 2 800 000 euros en global. Donc pour le centre de conservation, 1 500 000 euros pour le musée. Donc pour l'instant, il s'agit de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la couverture, 1 200 000 euros. Et en ce qui concerne les collections et le matériel, 65 000 euros. Le centre commercial de Bernon, donc je laisse, le montant des travaux est de 464 500 euros. Donc des trois cellules, une est déjà occupée par un bar qui est tenu par Aline Triolet, et les deux autres le seront prochainement et seront occupées par un salon de thé et un commerce de restauration. Le quartier Rosemont également. Donc, dans un premier temps, des travaux d'hydraulique qui ont été menés. Et puis ensuite, débutera la deuxième phase de construction de logements portée par Plurial Novilia. La coulée verte, que vous devez sans doute connaître. On va aller vous y promener. Donc, pour un montant total en 2017 de 421 300 euros. La résidence autonomie senior, dont la pose de la première pierre a eu lieu le 13 juin dernier, donc avec une subvention d'équipement au CCAS versée pour 590 000 euros. Des nouveaux locaux pour l'aide alimentaire. Donc nous avons réaménagé un bâtiment situé rue Henri Dunant pour un montant de travaux de 175 000 euros. Et puis les travaux de voirie. Donc l'avenue Jean Jaurès, qui est le gros chantier en cours, donc qui en est dans sa deuxième phase de travaux et la troisième phase qui devrait se terminer fin 2019. Et puis ensuite, d'autres rues, la rue des Guenaux, la rue Aymar, le gymnase en Riviette avec l'aménagement d'un parking qui comprend 88 places, la rue du Comte Lamberti, l'avenue Paul Bert. En ce qui concerne l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, pour un montant de 180 000 euros, les travaux de réfection des chéneaux et de la couverture en ardoise au-dessus de la nef ont été réalisés. Et à l'église Notre-Dame, ce sont la réfection des chéneaux et de la voûte intérieure qui ont été entrepris. Sur le plan de l'écomobilité, donc vous voyez à gauche de la photo une station de gonflage de vélo, dont je reprends toujours le terme de Jonathan, une station de vélo à énergie musculaire. J'aime beaucoup le terme. Et puis, les véhicules d'autopartage qui ont été installés avec les bornes qui se situent dans la rue adjacente. Au niveau de l'école maternelle horticulture, la charpente et la couverture ont été changées pour un montant de 151 700 euros. Et il y a eu également d'autres... outre des travaux, mais également d'équipements, matériel informatique, une mise aux normes accessibilité, la sécurisation des espaces scolaires, le renouvellement de l'équipement cuisine et le renouvellement d'une partie du mobilier. L'application Avenue de Champagne également. Donc voilà différents travaux et dépenses qui ont eu lieu au cours de cette année 2017. Alors, en ce qui concerne l'encours de la dette, donc au niveau de la ville, 34 emprunts sont actuellement en cours auprès de 5 groupes bancaires différents. Donc, l'encours de la dette de la ville et de ses annexes est de 35 millions d'euros. Cela tient compte, bien sûr, des reports de 2017 sur 2018 pour un montant de 1 300 000 euros. Notre dette est saine puisqu'elle se répartit à 51% sur des emprunts à taux fixe, 41% à des prêts à taux variable, ce sont des prêts qui sont indexés sur des livrets, et 8% sur des produits à barrière. Le taux moyen de notre dette est de 1,68%. Et donc la capacité de désendettement de la ville qui vous a été présentée tout à l'heure, donc qui est de 4,24 années, donc je ne reviens pas sur la définition de cette capacité de désendettement, ni sur sa signification. Et j'en ai terminé. Laisse la parole, Monsieur le Président.
Avez-vous des observations ou des questions à poser à Monsieur le Maire, s'il vous plaît ? Merci d'avoir mis le...
S'il n'y en a pas, on peut passer au rapport suivant. Mais...
La parole est à Monsieur Lefebvre.
Monsieur le maire, messieurs les adjoints, messieurs les conseillers municipaux, tout d'abord, je tiens à remercier les services de leur travail et de m'avoir fourni des renseignements demandés lors de la CAG. Bon, je n'ai pas eu tous les renseignements parce que la réunion aurait été trop longue et je ne veux pas être l'unique intervenant dans cette commission. Je ne vais pas revenir sur le manque de mesures pour enrayer la chute de la population, la fuite des jeunes de notre ville, le chômage, le vieillissement de la population, etc., thèmes qui ont été énoncés lors du budget primitif, mais je souhaite me cantonner à l'exécution de votre budget. Malgré une conjoncture favorable, vous dites défavorable, mais c'est quand même favorable, puisque du point de vue économique, il y avait des ressources nouvelles, vous avez cité les droits de mutation, notamment en hausse, votre compte administratif n'entérine pas vos ambitions annoncées lors de la présentation du budget primitif. Dans vos engagements pour 2017, vous parliez de la création d'un budget annexe de 750 000 euros concernant le projet de lotissement des Platets. Donc, qu'en est-il ? On n'a pas ce budget aujourd'hui. Nous avons soutenu et voté plusieurs projets en 2017, dont l'installation d'épiceries sociales et les Restos du Cœur dans le même bâtiment, la création de la coulée verte, inscrite dans notre programme électoral de 2008, l'installation du ballon captif, le musée et bien d'autres choses. Dans le numéro 165 du mois de février 2017 d'Épernay Journal, vous qualifiez le budget 2017 d'ambitieux, de volontariste, de rigoureux, de solidaire, etc. Après son exécution, ces termes sont à relativiser. Vos résultats sont nettement en deçà de vos déclarations et engagements initiaux. En voici quelques exemples. Votre compte administratif fait apparaître moins de rigueur que prévu, 9,5 millions d'euros de reste à réaliser en dépenses, dont 1 118 500 en fonctionnement et 8 330 900 en investissement. En dépenses d'équipement, seulement 9 569 000 de mandats émis sur les crédits ouverts, soit 51,6%. Un compte administratif moins ambitieux que prévu, plus de 5,5 millions de crédits annulés en dépenses, dont 4,9 millions en fonctionnement et 0,65 millions en investissement. Un cadre de vie amputé, un exemple significatif, l'installation de la voirie, le compte que je cite souvent, 2152, fait apparaître 979 780 de restes à réaliser et 226 275 euros de crédits annulés, soit 44% des crédits ouverts. Un monde associatif qui devait, comme c'est marqué dans le numéro d'Épernel Journal de février 2017, un monde associatif qui devait voir progresser légèrement le volume global de ses subventions qui lui sont versées. Ce montant inscrit était de 275 millions et en fait, 212 550 euros de crédits sont annulés et 67 900 constituent des restes à réaliser. Finalement, les subventions versées sont inférieures à celles de 2016. Quelques interrogations sur les dépenses en section d'investissement. À quoi correspondent ces restes à réaliser? Compte 2111, terrain nu pour 800 000 euros environ. Compte 2313, construction pour 2,3 millions. Compte 2315 pour 674 000 euros. Et puis, que représente le compte 192, plus-value ou moins-value pour moins 177 964 euros. En conclusion de tout cela, comme les années précédentes, vous avez pratiqué beaucoup d'effets d'annonce. Les crédits annulés et les restes à réaliser vous permettent ainsi de dégager un excédent de fonctionnement et de faire apparaître artificiellement une bonne gestion. C'est pour moi du trompe-l'œil. Merci de votre attention.
C'est pas moi qui donne la parole, c'est peut-être faire réagir tout le monde.
Merci, Monsieur le Président. Ça ne sera pas une surprise. Nous ne voterons pas le compte administratif, comme nous n'avions d'ailleurs pas voté le budget. Moi, je trouve que c'est toujours c'est un paradoxe administratif de nous demander de voter après coup pour quelque chose que nous n'avons pas voté. Et j'ai même une interprétation un petit peu différente de celle que vient d'évoquer Marc Lefebvre, notamment en matière de consommation des crédits. Parce que n'ayant pas voté le budget, je dirais que moins il y a consommation de crédits, plus ça devrait nous satisfaire dans l'absolu. Moi, pour une fois, ce n'est pas Marc Lefebvre qui a parlé des ratios, mais moi, je vais vous en parler quand même deux secondes. Il y a deux ou trois éléments qui m'ont interpellé à la lecture de ces ratios. Le premier, c'est celle des recettes liées au fonctionnement, des recettes de fonctionnement, et puis ensuite celle des dépenses de fonctionnement, et puis ensuite les ratios concernant la part des salariés en fait, de la ville, de la part de l'emploi dans la ville. On constate qu'en recettes de fonctionnement, nous sommes bien au-delà, presque 400 euros de mémoire, au-delà des villes de même strate en termes de recettes. Ça doit être de l'ordre de 1200 à 1600 euros. Donc moi, ça m'interpelle quand même. Ça veut dire que nous sommes une ville riche, où il y a des gens qui détiennent un patrimoine qui justifie de placer les ratios à ce niveau. Pour autant, on sait tous que le spectre de la population est large dans ce domaine. Ça veut dire qu'il y en a qui sont très riches, d'autres très pauvres. Et derrière, en bout de course, on se retrouve quand même avec une fiscalité On connaît votre adage annuel, la fiscalité à Épernay n'a pas augmenté depuis 10 ans, mais le fait qu'elle ne bouge pas, qu'elle n'augmente pas, mais surtout qu'elle ne diminue pas, fait qu'on reste de toute façon, de manière arithmétique, au-delà du ratio des autres villes. Donc moi, je pense que, au travers de cette lecture, ne pas faire en sorte qu'un jour, nos concitoyens, notamment les plus démunis, les plus modestes, ne bénéficient pas de cette situation par une hausse de la fiscalité, enfin par une baisse de la fiscalité significative, ça me semble quand même fort de café. Effectivement, ensuite, on constate que les dépenses de fonctionnement ne sont pas, je dirais, du même niveau que celles liées aux recettes de fonctionnement. L'écart par rapport aux villes de même strate est moins important, ce qui justifie très certainement une partie de la mise en réserve que vous signifiez. Mais l'autre aspect, le dernier aspect à la lecture de ces ratios qui m'a intéressé, c'est celui du poids des salariés, du poids des personnels de la ville par rapport à ce qu'il est dans d'autres villes de même strate. Il est beaucoup moins cher ici. Et en fait, on retrouve, je dirais, le pendant de cela en termes de externalisation des métiers, des services et un recours à des entreprises extérieures qui est nettement plus important, qui est pour le moins significatif sur notre budget. Donc, à force de vouloir contenir les coûts de personnel, faisons attention à ne pas aller trop loin, parce que moi, je considère que c'est aussi un élément de développement durable d'avoir des gens qui travaillent à proximité, pour ceux au moins qui sont sparnassiens, à proximité de leur domicile, et d'avoir recours à une externalisation parfois avec des entreprises qui viennent de plus loin, ce n'est pas forcément un bon karma. Donc ça, c'était ma première remarque. Quand on regarde ces ratios, pour moi, je dirais que tout prend forme autour, je dirais, d'un déterminisme de droite électorale. Donc vous êtes un maire de droite, dans une ville de droite, et je dirais quoi de plus malheureusement normal, même si notre combat à nous est essayer de vous pousser dans vos retranchements, mais on est dans une situation pour le moins logique au vu du déterminisme social dont je faisais l'écho au travers de quelques ratios. Donc aujourd'hui, vous faites une politique de droite à destination d'un public privilégié, c'est normal, vous servez votre public, ce que la gauche, malheureusement, de temps en temps, quand elle est en fonction, ne sait pas faire. Je crois que ce n'est pas un reproche qu'on peut vous faire de servir vos gens, tant mieux pour vous. Mais moi, je considère que pour autant, nous qui sommes dans l'opposition par rapport à ça, devons-nous nous taire, même si nous sommes en situation minoritaire. Il y a quand même des gens qui, dans cette ville, sont hostiles aux politiques que vous conduisez, et il est normal qu'ils retrouvent un champ d'expression au sein de ce Conseil, et c'est ce que nous essayons de faire de manière continuelle en nous exprimant à l'encontre et contre vos orientations. Ce qui me dérange le plus au travers d'une politique de droite, c'est qu'il n'y a pas. C'est que votre politique de droite, quand on la consolide à l'échelle nationale, quand on la consolide à l'échelle européenne, c'est malheureusement ce qui nous emmène vers un certain nombre de chaos, tant sociaux qu'environnementaux, que l'on connaît en ce moment et qui, malheureusement, dans certaines circonstances, font le nid d'un certain nombre de populismes sociaux, populismes environnementaux, et ça, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Alors, pourquoi chaos social, chaos environnemental ? Moi, je suis quand même inquiet de voir le service qui est apporté à la frange la plus, celle qui en aurait peut-être le moins besoin, la plus favorisée de la population. Pourquoi ? Parce que moi, je ne crois pas du tout aux politiques de ruissellement dont vous voulez nous faire croire qu'elles sont utiles, parce qu'on sait très bien, c'est comme en géologie, il peut pleuvoir. Mais il y a un moment, il y a de l'infiltration, et puis il y a aussi un moment où il peut y avoir de l'évasion. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même mener des politiques qui soit tournée vers toutes les bourses, vers toutes les franges de la population. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous faisons de la politique. Nous faisons le choix de défendre les intérêts catégoriels de la partie sociale la plus défavorisée. Donc, nous, on est dans notre, je dirais, dans notre exercice. Chaos environnemental, parce qu'on sent très bien que, de toute manière, ce sont bien les politiques de droite, ce sont les politiques d'individualisme, c'est les politiques d'intérêts particuliers et partisans qui conduisent quand même la planète dans le sens où aujourd'hui elle va et dans un sens défavorable au niveau du réchauffement climatique. Et n'en déplaise à M. Rodriguez, ce n'est pas sa semaine du développement durable qui va, je dirais, faire un écho terrible sur la planète et la servir grandement. Donc aujourd'hui, nous, on a décidé donc de voter contre ce compte administratif parce que, d'une part, il est utile que des Sparnassiens aient leur voix représentée ici, au sein de ce conseil municipal, ça me semble important. Et puis, nous laisserons le soin à la droite, ici présente, voire les droites, de voter votre compte administratif. Nous, en qualité de représentants de la gauche, eh bien, nous voterons contre.
Merci, Monsieur Angers. Qui prend la parole? Non.
Si vous me le permettez, Monsieur le Président, je voudrais apporter quelques éléments de réponse. Je ne m'attendais pas très sincèrement à un propos très différent de celui que Marc Lefebvre et Jean-Paul Angers ont prononcé à l'instant. On retrouve des critiques qu'on a déjà entendues pour la plupart d'entre elles. Qui tente de s'adapter au contexte politique nouveau, mais sans vouloir nier l'engagement politique des uns et des autres, je crois pouvoir dire que ce qui caractérise les travaux qui sont entrepris au niveau de la ville, ce n'est pas tellement d'avoir une politique de droite ou de gauche, c'est d'avoir une politique qui est avant tout pragmatique, faite de bon sens et qui s'est fixée comme objectif de faciliter le développement de notre ville. Alors, quand on dit que, Marc Lefebvre dit, quand on manque de mesures pour enrayer la chute des habitants, il se trouve que cette année, on engage les travaux du quartier de Rosemont qui ont commencé. C'est plus de 110 logements qui vont être construits dans ce quartier, qui ne comptaient beaucoup moins de logements préalablement, dans des conditions d'accès, d'accueil, de confort incomparablement supérieures à ce qui pouvait exister. C'est aussi peut-être l'expression d'une fibre sociale. À Bernon, je rappelle qu'autrefois, Bernon se caractérisait par une vacance massive qui s'éteint petit à petit dans le quartier aujourd'hui, tout simplement parce que le quartier est en train de changer d'image et que du coup, ce quartier redevient attractif pour un certain nombre de couples qui sont d'Épernay pour certains d'entre eux, qui sont d'ailleurs pour d'autres et qui en tout cas apprécient la qualité de vie qu'on y trouve. Et puis, je vous rappelle que nous sommes en phase finale d'approbation du PLU, que ce PLU a prévu un certain nombre d'OAT, d'opérations d'aménagement, qui vont permettre justement de développer de manière judicieuse une politique urbaine permettant d'offrir davantage de logements, d'offrir davantage de possibilités d'accueil à Épernay, car s'il y a bien un handicap que nous avons à Épernay, c'est la rareté du terrain. Par rapport à toutes les villes moyennes que je connais dans la région Grand Est, je crois sincèrement, et je pourrais le démontrer sans difficulté, qu'on est la ville la plus contrainte, de par la présence de la plaine inondable au nord, alors que nous avons des centaines d'hectares, des dizaines d'hectares dans la plaine d'Aï, impossible de construire, que nous sommes bordés à l'ouest comme à l'est par des coteaux viticoles que je me refuse à arracher pour les livrer à l'urbanisme, parce que ce serait de la folie et ce serait un non-sens sur le plan, à la fois en termes d'image, mais en même temps sur le plan de ma conception du rapport à la nature. Et qu'au sud, nous avons la commune de Pierry qui vient, en quelque sorte, nous empêcher, mais il n'y a aucune hostilité de sa part, mais vient tout de suite border le sud. Dès qu'on passe derrière l'hôtel de communauté, on bascule sur Pierry, de sorte que les possibilités de construction sont évidemment extrêmement rares. J'ajoute que les premières surfaces occupées à Épernay sont, 1, la forêt, 1 000 hectares, et ensuite le vignoble, quelque chose comme 350 hectares de vignoble. Donc quand on a identifié toutes ces contraintes, il n'est pas étonnant qu'on ne puisse pas avoir la possibilité, comme d'autres agglomérations, de s'étendre sur des kilomètres, sur des dizaines d'hectares, ce qui permet évidemment d'attirer plus facilement un certain nombre d'habitants. Quand vous nous dites, Marc Lefebvre, que nous manquons d'ambition, un compte administratif où il y a plus de 10 millions d'euros d'investissement, franchement, je pense que ça ferait plutôt pâlir d'envie bien des collectivités de notre taille. Quant aux critiques sur la voirie et sur les restes à réaliser, c'est tout simplement un effet d'affichage, puisque, évidemment, un budget est voté en début d'année. Le temps que les appels d'offres soient lancés, il commence à se mettre en œuvre véritablement à la fin de l'été, à la fin de l'hiver, en période printanière, où les travaux peuvent enfin commencer. Autant dire que chaque année, c'est environ 9 mois, c'est 8 à 9 mois d'activité réelle pour nos travaux, alors que notre année budgétaire correspond à 12 mois. Donc on a tout le temps, et de tout temps, et bon nombre de collectivités sont comme nous, des opérations qui effectivement démarrent l'année où les budgets sont votés, mais qui se terminent l'année suivante. Et vous savez comme moi que dès qu'on passe le 31 décembre, on est en reste à réaliser. Et donc, il faudrait pour bien, effectivement, additionner ces restes à réaliser avec le budget initial pour se rendre compte que les travaux qui sont entrepris sont importants. Et en tout état de cause, les critiques qu'on entendait régulièrement, il y a 10 ou 12 ans, on les entend de moins en moins parce que le constat que font les habitants d'Épernay dans les quartiers, c'est que les travaux qui sont promis sont faits. Et je suis évidemment avec l'ensemble de l'équipe très attentif à cela. Joachim est très régulièrement sur le quartier, sur les problématiques de voirie. Je crois pouvoir dire que partout où on va, on y va sans gilet pare-balles. Hein, on peut y aller tranquillement parce que les gens voient que le quartier évolue, voient que les quartiers évoluent et que globalement, ils considèrent que les engagements qui sont pris sont tenus. Concernant l'intervention de M. Angers, vous considérez que s'agissant des recettes de fonctionnement, on est une ville riche. C'est pas faux. Que pour autant, on fait une politique pour les riches. Et là, évidemment, je m'inscris en faux contre cette interprétation, qui ne me surprend pas, parce qu'on a entendu dans la suite de votre propos que finalement, ce qui vous arrangeait, c'était ce fameux clivage droite-gauche auquel vous êtes attaché depuis toujours et auquel, jusqu'à votre dernier souffle, vous serez attaché. Bon, il se trouve que je ne partage pas et je n'ai jamais partagé ce clivage parce que sur certaines questions, il peut rester pertinent et sur d'autres, on se rend compte que les conservateurs ne sont pas toujours ce qu'on croit et les progressistes ne sont pas toujours là où on pense qu'ils sont. Il y a de multiples sujets sur lesquels on est à front renversé et je trouve que sur beaucoup de sujets, ce clivage, s'il existe, grosso modo le clivage entre les réformistes et les conservateurs, tantôt il est dans un sens, tantôt il est dans l'autre, tantôt les conservateurs sont de gauche, tantôt ils sont de droite, pareil pour les réformistes, tantôt ils sont de droite, tantôt ils sont de gauche. Donc je pense que la réalité du monde politique est beaucoup plus complexe que la présentation que vous venez de nous faire. Quand vous dites que nous privilégions l'investissement, parce qu'en clair, c'est le reproche que nous avez fait, en nous demandant de baisser les impôts, vous nous demandez de renoncer à investir, puisque évidemment, si on baisse les impôts, on a moins de recettes. Si on baisse les impôts, on ne peut pas investir autant qu'on investit. Il se trouve que c'est notre politique d'équipement qui nous permet de répondre aux attentes, par exemple, des personnes âgées. Je crois savoir que la petite manifestation de l'autre jour s'est parfaitement déroulée et pour avoir déjeuné avec un certain nombre de résidents ou de futurs résidents de notre résidence, cette résidence personnes âgées, elle est extrêmement attendue. Je reviens sur le quartier de Bernon. Je n'ai pas entendu, et Dieu sait qu'il y avait du monde sur le quartier samedi, jusqu'à samedi soir tard, je n'ai pas entendu une critique de quelqu'un me dire que je faisais une politique de riche ou de droite, puisque j'ai cru comprendre que dans votre esprit, c'était la même chose. Quand on travaille sur les entrées de ville et quand on fait les travaux de l'avenue Jean Jaurès, on fait pas, il n'y a pas une avenue Jean Jaurès de droite et une de gauche. On fait une avenue Jean Jaurès parce qu'on a besoin de la faire, parce qu'on a besoin pour les riverains de leur améliorer leur cadre de vie. On a besoin pour une ville touristique, effectivement, de séduire les visiteurs dès leur arrivée dans la ville. Je n'ai pas le sentiment que ce soit une politique de droite ou de gauche. Enfin, quand on parle de politique de droite et qu'on cite les principaux investissements de ce mandat, et ce n'est pas Christian qui va me démentir, et je n'ai pas connaissance que Christian Demongin soit un homme politique de droite. Quand on voit l'investissement qui est le nôtre dans la vie culturelle, et qui, mais ça je vous laisserai débattre tous les deux, quand on voit les investissements qu'on réalise dans la politique culturelle, avec notamment en point d'orgue évidemment les travaux autour du musée, je pense qu'on fait une politique qui peut présenter de temps en temps des mesures de droite, qui peut présenter de temps en temps des mesures plutôt d'inspiration de gauche, mais qui vise surtout à un développement équilibré de la ville. Et la ville, c'est aussi bien le développement de l'urbanisme que la vie culturelle, c'est aussi bien l'aide sociale que le développement économique, c'est aussi bien le développement du tourisme que le développement du sport et de la culture, parce que c'est tout simplement comme ça que nous vivons tous. Nous avons besoin de culture, nous avons besoin de sport, nous avons besoin d'éducation, nous avons besoin de liberté d'entreprendre, nous avons besoin d'accueillir des touristes, nous avons besoin de nous vendre à l'extérieur. Et ça, c'est, pardon de le répéter, c'est pas de la politique de droite, c'est pas de la politique de gauche, ça me semble être plutôt une politique de bon sens et une politique, en tout cas, ambitieuse. Alors, vous m'accusez ensuite de brader le service public, c'est pas le terme que vous avez utilisé, mais je pense qu'il n'était pas loin de ça dans votre esprit, en dénonçant l'externalisation des services. Écoutez, quand j'entends aujourd'hui les parents qui me parlent de la restauration scolaire par rapport à ce qu'elle a été dans notre ville, je ne critique pas ce qui a été le passé, mais j'observe qu'aujourd'hui, les taux de satisfaction sont extrêmement élevés. On satisfait à tous les critères portant sur le bio, portant sur les filières courtes. Ce qu'on était incapable de faire avant, parce que c'était compliqué à faire, aujourd'hui, le groupe API, qui travaille d'ailleurs dans de très nombreuses collectivités, encore une fois, de droite comme de gauche ou d'ailleurs, aujourd'hui, donne pleinement satisfaction. Et je pense que le taux de retour et de satisfaction que nous avons est extrêmement important. Alors, quand vous posez la question, devons-nous nous taire ? Surtout pas. J'ai jamais empêché quiconque de s'exprimer dans cette salle. J'observe quand même que vous restez donc nostalgique de ce clivage droite-gauche. Vous avez été presque jusqu'à dire que je serais responsable de la montée des mouvements populistes en Europe. Vous me prêtez une influence. Vous me prêtez une influence que je ne me connaissais pas. Peut-être que je vais finir par prendre la grosse tête si ça continue. Mais oui. Oui, oui, oui. Voilà. Enfin, quand on dénonce le fait que nos politiques de droite conduisent à monter des populismes, je suis désolé, je ne vois pas en quoi la politique que nous menons à Épernay a une quelconque influence sur le développement du populisme en Hongrie, en Pologne ou ailleurs. Je pense que là-dessus, vous avez été peut-être un peu fort. Quand vous parlez de la politique du ruissellement, je ne crois pas personnellement au ruissellement. Je ne suis pas un adepte de cette politique. Je suis un adepte avec l'équipe municipale qui m'entoure et je pense pouvoir dire que chaque adjoint, chaque conseiller municipal délégué, chaque vice-président de l'agglomération a avant tout une politique pragmatique, c'est-à-dire on apporte des réponses concrètes aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et je suis persuadé que chez les uns, chez les autres, à aucun moment quand on prend une décision, on se dit « Ah là, il faut qu'on prenne une décision de droite hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris une ». Ça n'existe pas, ça. Dans vos rêves, ça existe. C'est dans vos rêves, peut-être, dans vos fantasmes. Mais les choses sont beaucoup plus simples que ça. Et j'allais dire, je pourrais évoquer, en parlant de notre action, d'actions qui sont menées par d'autres maires. Je crois que quand on est maire d'une commune, quand on est élu municipal d'une commune, on a le devoir avant tout d'être pragmatique, d'être concret, de faire au mieux et de faire ce qui nous semble être l'attente des habitants. Je pense qu'aucun élu... Alors peut-être que dans les extrêmes, ça peut arriver, à extrême droite, à extrême gauche, peu importe. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Et je prends à témoin l'ensemble des élus ici... Il n'y a pas de diktat politique qui est énoncé. On agit en fonction de ce qu'on pense être bon pour la ville et on continuera à le faire jusqu'à la fin de ce mandat, je peux vous assurer. Enfin, sur l'environnement, bah, là aussi, c'est la critique habituelle. On n'est pas parfait en matière d'environnement. Je crois pouvoir dire, en revanche, qu'on est très certainement dans le peloton des villes de Grand Est les plus préoccupées par l'environnement et les plus investies à des titres divers, à travers la communauté d'agglo, à travers la ville. On pourrait citer une multitude d'exemples. On a encore du travail à faire et on a encore, Jonathan le sait, beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail notamment pour convaincre les Sparnassiens au sens large, les habitants du territoire au sens large, que c'est un atout, enfin que c'est une préoccupation majeure. On était la semaine dernière, mardi dernier ou mercredi dernier avec Jean-Louis Etienne, l'explorateur au théâtre, on avait 130 personnes. C'est sûr que j'aurais préféré qu'on ait 450 personnes. Néanmoins, les 130 personnes qui étaient là étaient convaincues. J'espère qu'ils le seront à nos côtés parce que ce qui compte, c'est évidemment les investissements que la ville fait en matière d'environnement, mais c'est plus encore la manière dont chaque Sparnassien conçoit son rapport à la nature. Et là, il y a encore un énorme travail à faire, même si, j'en suis convaincu, on est dans la bonne direction. Donc voilà les éléments, Monsieur le Président, que je souhaitais apporter en réponse aux interventions.
Merci, Monsieur le maire. Merci, Claude. Bon, avant de mettre les rapports aux voix, conformément à la loi, je demanderai à Monsieur le maire de quitter la salle des séances. Bien, ben nous allons voter pour les différents comptes. On va commencer par le compte administratif de la ville. Qui est contre ? 4. C'est bon. 5. A plus un pouvoir. 2. 5. Qui s'abstient ? 2. Le compte est adopté. Deuxième compte, le compte administratif des parkings. Qui est contre ? Pareil. Pareil. La même chose. 5 et 2. Le compte administratif des parkings est adopté. Compte administratif du camping. Pareil. 5 et 2. Ce compte-là est adopté. Passons au compte administratif du chauffage urbain. Pareil, toujours 5 et 2. Ce compte-là est adopté. Pour le compte administratif des cellules commerciales. Toujours 5 et 2. Ce compte pour les cellules commerciales est adopté. En dernier, c'est le compte administratif des cellules commerciales de Bernon. Toujours 5 et toujours 2. C'est bien. Je vous remercie. Et on peut faire revenir Monsieur le maire dans la salle. Là, j'ai pas les résultats.
Mais tu viens de le dire que les comptes sont adoptés.
Oui, tous les comptes sont adoptés, Monsieur le maire.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Michel. Merci à toutes et à tous. Nous devons donc maintenant passer à l'examen normalement du compte de gestion du receveur municipal. Je vous propose d'approuver les comptes de gestion ville et budget annexe du receveur principal pour l'exercice 2017, détaillé dans le rapport en votre possession. Donc, il s'agit du compte de gestion de la ville, du compte de gestion des parkings, du compte de gestion du camping, du compte de gestion du chauffage urbain, des cellules commerciales et des cellules commerciales de Bernon. Y a-t-il des... Je rappelle que le compte de gestion, c'est la partie qui incombe, évidemment, au receveur municipal. Pas d'opposition, pas d'abstention. Trois au total, d'accord. Trois abstentions. Nous passons ensuite au rapport numéro... 13, logiquement, qui concerne l'affectation des résultats de l'exercice 2017. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos. Je vous propose donc d'approuver l'affectation des résultats de l'exercice 2017 pour le budget principal et les budgets annexes, détaillés dans le rapport en votre possession. Idem pour la ville, pour les parkings, pour le camping, pour le chauffage urbain, les cellules commerciales et les cellules commerciales de Bernon. Pas d'opposition, pas d'abstention. 5 cette fois. 5 abstentions, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 20, qui concerne 19, non ? Oui, 19, il y a les subventions, peut-être bien. Ouais. Rapport 19, Christine... non.
Oui, la décision modificative numéro...
Oui, 2. Pardon, la... Exact.
Voilà.
Rapport 19, Christine Mazzi.
Donc, cette décision modificative numéro 2 reprend l'affectation des résultats 2017 par budget et tient compte des reports de fonctionnement et d'investissement pour les équilibres par section. Donc, je vous propose d'approuver les virements qui figurent dans le rapport qui vous a été transmis. Je ne vais pas en refaire la liste puisque, dans son propos liminaire, Monsieur le maire a donné quelques exemples. Je vous rappelle... simplement les principaux, 1 090 000 euros pour le projet du musée, 45 000 euros pour un complément de crédit pour l'accueil de jour qui se situera rue de Verdun, l'achat du dôme pour diverses manifestations de la ville, 39 000 euros qui seront réinscrits pour des projets 2017 dans le cadre du développement durable, des projets qui n'ont pas été finalisés et qui ont été supprimés en fin d'année. Il y en a d'autres, vous avez la liste. Si vous avez des questions, bien évidemment, nous y répondrons sans problème.
Merci. Des questions ? Pas de questions. Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 20. Christine Mazzi.
Donc, il s'agit de l'attribution de subventions. Donc, divers groupements et organismes ont adressé des demandes de subventions auxquelles je vous propose de répondre favorablement en attribuant les sommes énumérées dans le rapport qui est en votre possession.
Alors, une petite précision que je vous apporte concernant les subventions dans le domaine sportif notamment. Nous avons décidé de voter une subvention exceptionnelle au Racing Club d'Épernay-Champagne au football, tout simplement parce que cette année, le championnat avait un nombre de clubs anormalement élevé. La meilleure preuve, c'est qu'il y avait 6 équipes qui devaient descendre. Ils ont donc eu beaucoup plus de déplacements que les autres années. Donc ça, c'est la première explication. Deuxièmement, le club, en 2017, a créé 4 équipes féminines. Alors, je ne vais pas dire que les femmes coûtent cher. Loin de moi cette idée. Mais 4 équipes féminines, vous vous souvenez qu'on a créé on a décidé de construire de nouveaux vestiaires pour accueillir les féminines. C'est une excellente nouvelle pour l'école de foot. Le problème, c'est qu'effectivement, il faut maintenant transporter ces jeunes joueuses. Elles vont se déplacer sur des territoires extrêmement vastes. Donc, évidemment, elles se déplacent sur un territoire de plus en plus grand. Et s'agissant de l'équipe U15, donc les moins de 15, elle est montée en National Grand Est, ce qui implique les mêmes déplacements que l'équipe première. Donc, là aussi, des frais de fonctionnement plus élevés que d'ordinaire. On a eu les mêmes mauvaises surprises sur un certain nombre de sports qui nécessitent parfois des découpages. Je pense au club de volleyball qui va jusqu'à Dunkerque d'un côté et qui va jusqu'à Strasbourg de l'autre. Quand on comptabilise les kilomètres, avant les clubs étaient en régional, maintenant ils sont en national. Donc évidemment, c'est des frais supplémentaires pour tout le monde. Et donc, il nous a semblé nécessaire de soutenir un certain nombre de clubs qui nous ont fait part de ces difficultés. Il faut reconnaître que l'élargissement de la région est en train de transformer le paysage sportif. Qu'auparavant, pour les clubs régionaux, ils évoluent en Champagne-Ardenne. Désormais, ils évoluent dans le Grand Est, avec des kilomètres qui sont parfois multipliés par 2 ou par 3. Et donc, ça explique ce soutien que nous leur apportons dans le cadre de ces subventions exceptionnelles. Ah, ça nous fera revenir. D'autres questions, d'autres précisions ? Donc, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous arrivons au rapport 21. Chers collègues, je vous propose de transférer à la communauté d'agglomération la compétence promotion du tourisme que nous avions gardée en raison de la procédure de classement en cours. Le classement station de tourisme obtenu, ce maintien n'a plus lieu d'être. Je vous propose également de conserver pour 2019 le bénéfice de la taxe de séjour afin d'appréhender les enjeux liés au classement de la ville en station de tourisme. Inévitablement, cette taxe de séjour aura vocation à partir également à la communauté d'agglomération, mais nous en avions discuté et je crois d'ailleurs que c'était une attente exprimée aussi par les élus d'opposition, à savoir que la logique voudrait que l'Office du tourisme dépende de l'agglomération plutôt que de la ville. En réalité, l'aire d'influence de l'Office du tourisme dépasse largement la communauté d'agglomération. On mord assez sensiblement sur d'autres territoires, y compris les territoires situés dans l'Aisne, et donc effectivement ce transfert était inévitable, mais vous savez quel argument j'avais opposé à l'époque. On était en pleine phase de classement. Le classement étant intervenu en décembre dernier, il était trop précipité de le faire en un mois. C'était d'ailleurs impossible. Et donc, il interviendra bien, ce transfert, au 1er janvier prochain. Y a-t-il des questions ? Oui ?
Oui, donc c'est une satisfaction, puisque je le réclamais depuis 2008, régulièrement chaque année. Je voudrais poser d'autres questions. À propos du directeur de l'Office de tourisme, il va intervenir, je crois, pour 40% en tant que directeur du ballon captif de la SEM, et puis 60% à l'Office de tourisme. Alors, en fin de compte, il va remplir à 100% la tâche incombant à la direction de l'Office de tourisme. Son prédécesseur avait le même salaire pour 100%. Alors, pourquoi pourra-t-il s'occuper de 60% d'effectuer toutes les charges de la responsabilité de directeur de l'Office de tourisme ? Est-il plus performant que le prédécesseur ou comment sait-il qu'il va pouvoir faire tout ce travail à simplement 60% de son temps ?
Alors, je rappelle que le directeur précédent à la fois été le directeur de l'Office du tourisme et mené un certain nombre d'opérations à la demande de la ville. Donc il
oui,
était normal.
Mais à la ville, il avait 2000 euros de
non,
plus
mais
par
il
mois.
Était normal que la ville le rémunère indépendamment de l'Office, ouais. Notamment dans la conduite de la mission concernant le classement station de tourisme. Aujourd'hui, les choses sont différentes puisque tous les classements que nous poursuivions, nous les avons. Et aujourd'hui, nous avons effectivement un nouvel équipement qui est la SEM du ballon captif, qui va démarrer dans quelques jours. Et évidemment, il n'y a plus la même attente du côté de la ville, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas dans nos objectifs des équipements touristiques spécifiques à la ville. Aujourd'hui, tout est pensé à l'échelle de l'agglomération, que le ballon captif est évidemment une entreprise nouvelle, parce que c'est une entreprise, hein, c'est une société d'économie mixte, qui va nécessiter une présence de tous les instants de son directeur. Alors la proximité entre les deux, c'est quand même le même domaine d'activité. L'accueil touristique, la vente de prestations touristiques, c'est quelque chose qu'il sait faire compte tenu de son profil. Et donc une répartition est intervenue entre les deux. Je ne sais pas si c'est 60-40 ou 30-70. Mais
C'est 40%. En fin de compte, l'ancien directeur de l'Office intervenait au niveau de la ville en dehors de son travail. Ce n'était pas compris, inclus dans son travail initialement, dans son salaire.
Non, mais il avait...
Donc,
effectivement, je peux attester qu'il avait des...
Oui,
j'avais moi-même des réunions avec
pour
lui.
Pour le même salaire, il y en a un qui fait 100% et l'autre qui fait 60%.
Non. Il y avait des missions. Je recevais régulièrement Frédéric Nebout pour faire le point notamment de la candidature. C'est nous qui avons décidé de le mobiliser sur cette candidature. C'est nous qui avons décidé de prendre un cabinet conseil parce que c'est un sujet extrêmement technique pour lequel un travail de lobbying était à entreprendre. Tout a été réalisé, les objectifs ont été atteints. Mmh. Il est clair que quand Frédéric Nebout a souhaité quitter ses fonctions, un nouveau directeur au profil différent a été recruté. Il est un ancien consultant dans le domaine du tourisme. Il a travaillé dans des stations de ski, il a travaillé dans des territoires importants. Et il a été dès le départ mentionné que plutôt que d'avoir, dans le souci de limiter les charges, plutôt que d'avoir un directeur de la SEM d'un côté, un directeur de l'Office de l'autre, compte tenu de la proximité et du même centre d'intérêt que constituent ces deux équipements, on a décidé, l'Office du tourisme et la SEM ont décidé, nous ne sommes que spectateurs dans cette affaire, puisque nous n'intervenons pas dans la rémunération du directeur des deux structures. Et je pense que l'accord qui a été trouvé me semble tout à fait satisfaisant. Alors, est-ce que dans le temps, ce restera du 60-40, ça deviendra du 70-30 ? J'en sais absolument rien aujourd'hui.
Mais alors que deux
je vous suggère d'interroger...
Deux personnes de l'Office de tourisme vont être détachées au ballon. Donc, il y aura un manque de personnel ou il y avait un surplus de personnel à l'Office de tourisme ?
Non, il n'y a pas de notion de détachement au sens où...
Non, pas détaché, ils seront du personnel du ballon.
Voilà, ils ne quittent pas la structure Office du tourisme.
Oui.
Mais étant donné qu'on peut penser qu'il y aura du monde au ballon, on a décidé de positionner dans un poste avancé, en quelque sorte, les agents de l'Office, parce que toutes les personnes qui demanderont des renseignements, c'est quand même beaucoup plus simple de leur apporter les renseignements là où ils sont parfois en train d'avoir un peu de temps d'attente, plutôt que de les laisser au pied du ballon, et ensuite de leur demander d'aller à l'Office, qui de toute façon a toutes les peines du monde à répondre à toutes les sollicitations les jours de pointe.
En conclusion, avec 2-4 personnes en moins à l'Office de tourisme, on fera le même travail ?
Absolument pas. Non, je pense que vous n'avez rien compris. Ce qui est en tout cas intéressant à voir, et ça vous devez le savoir puisque vous êtes au conseil d'administration de l'Office, c'est que les visites au guichet diminuent. Les visites au guichet diminuent, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tous les gens préparent sur Internet leurs déplacements. Donc aujourd'hui, vous avez sur les sites Internet et sur le site de l'Office, qui est assez remarquable, toutes les informations. Donc pourquoi aller au guichet, attendre parfois derrière un ou deux touristes pour demander un renseignement, alors qu'en allant sur le site ou sur la borne qui est devant l'Office, vous avez tout ce qu'il vous faut. En revanche, là où les touristes sont, c'est sur l'avenue de Champagne, donc il faut impérativement garder un site de l'Office sur l'avenue de Champagne. Et là où ils vont être à partir de ce week-end, c'est aussi sur le Jard, et le fait d'avoir détaché au sens physique, hein, ce n'est pas un détachement forcément juridique, mais détacher deux agents sur deux sites permettra d'avoir un maximum de contact avec les touristes. Ce qui reste l'objectif premier, évidemment.
Dernier point, les locaux actuellement appartiennent à la ville. Seront-ils toujours mis gratuitement à disposition de l'agglomération ?
Écoutez, ces questions n'ont pas encore été résolues. Elles le seront avant la fin de l'année, puisqu'évidemment, l'utilisation des locaux, vous avez raison de dire que les locaux appartiennent à la ville. Donc ça fait partie des questions. Là, pour l'instant, la délibération
vous propose d'engager le transfert. Le transfert, il ne se fait pas tout de suite. Hein. Pour qu'il se fasse au 31 décembre, il faut qu'on ait également une délibération du côté de la communauté d'agglomération et que tout le processus juridique et financier soit activé jusque dans ses plus infimes détails. Monsieur Richard.
Merci, monsieur le maire. Oui, c'est juste sur... puisque c'est l'office... Et lors de la dernière réunion du conseil d'administration de celui-ci, nous avons eu une très longue intervention du nouveau directeur. D'ailleurs, intervention qui, par certains aspects, était effectivement intéressante, également instructive. Il a dressé un bilan assez... tout en voulant rester prudent, il a dressé un bilan de ce qui a été fait précédemment, plutôt en creux, plutôt en négatif qu'autre chose. Et il y a un certain nombre de chantiers qu'il entend mettre en route, avec d'ailleurs l'accord, je dirais, de l'ensemble du conseil d'administration, hein, c'est-à-dire que, y compris les représentants de l'opposition, si je puis dire, mais on représente aussi la ville d'Épernay dans ces cas-là, qui vont demander du temps, beaucoup d'explications, beaucoup de persuasion. Il va y avoir des heures de négociation, notamment en ce qui concerne l'agencement des horaires, du personnel, etc., avec l'ouverture, notamment le midi, de cet office, puisque il est vrai que chacun a pu le constater. Parfois, il y a des touristes qui sont là, qui s'interrogent. Alors, moi, la question, elle est celle-ci. Compte tenu du bilan, quand même, plutôt, je dirais pas noir, en demi-teinte, quand même plutôt gris et parfois gris foncé qui nous a été fait, je me dis que le directeur, il a du pain sur la planche. Sur le système cadre informatique qui ne fonctionne pas ou très mal, c'est-à-dire qu'on est obligé de reprendre tous les jours les opérations le soir, les opérations de caisse pour les reporter parce que ça ne fonctionne pas. C'est un système, un logiciel récent et manifestement, il y a quand même pas mal de points qui méritent, je dirais, qui vont l'occuper. Alors voilà, je me posais la question, à 60-40, parce que c'est les chiffres, Madame Lheureux, hein, qui ont été avancés, alors, ouais. Sans que ça soit dit...
30 et 40,
mais... Ouais, sans que ça soit dit, bon, voilà, comme ça, mais c'était l'ordre de grandeur. Hein, voilà, moi, je me pose la question, on peut s'interroger, compte tenu, pas de l'État, parce que si je dis de l'État, de l'Office, on va penser que j'ai fait un bilan, une sinistrose, pas du tout. Mais quand même, il y a des sujets de préoccupation dans cet office pour le faire fonctionner normalement et qui puisse jouer encore mieux un rôle aussi de service public. Parce que, voilà, au bénéfice de la ville et au bénéfice, pas seulement du Champagne, mais de la Champagne.
Alors, je m'inscris en faux contre cette analyse. D'abord parce qu'il faut, c'est pas parce qu'effectivement il peut y avoir ponctuellement des difficultés de logiciel et autres, elles tiennent pas forcément au directeur, elles peuvent tenir simplement au choix du prestataire qui a été choisi, aux difficultés qu'on a à utiliser son logiciel. Mais quand je regarde la situation de l'office telle qu'elle était, je sais plus la date à laquelle est arrivé Frédéric Nebout, mais entre ce qu'était l'office de tourisme à son arrivée et ce qu'il est à sa sortie, la croissance est quand même spectaculaire. Alors que sur certains dossiers, on a été confronté à des difficultés. J'allais dire, qui n'a pas dans son action des domaines dans lesquels il excelle et d'autres dans les domaines sur lesquels on se heurte à des difficultés. Ici, dans la collectivité, on a parfois aussi ce genre de difficultés. Moi, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec l'ancien directeur, avec le nouveau directeur. Je peux vous assurer que le bilan que m'a dressé le nouveau directeur est loin d'être un bilan totalement négatif. Il m'a fait part des difficultés qu'il rencontrait, que son équipe rencontrait, de difficultés managériales qui étaient apparues ces derniers mois, c'est incontestable. Mais en même temps, quand on regarde les chiffres, quand on regarde la progression du chiffre d'affaires, quand on regarde la progression des résultats de l'office, elle est quand même spectaculaire. Et je crois qu'on doit, en toute justice, aussi reconnaître à l'ancien directeur ces mérites-là. Un bilan n'est jamais tout blanc ou tout noir. Moi, je pense qu'il est blanc légèrement grisé, ou peut-être un peu plus gris que blanc, mais bon, on est plutôt entre le blanc et gris qu'entre le gris et le noir, à mon sens. En tout cas, d'après tous les rapports que j'ai pu avoir et d'après tous les partenaires que j'ai pu rencontrer, Tout est une question de nuance et d'appréciation. Mais je puis vous assurer qu'on a aujourd'hui un bel outil qui dispose de toutes les habilitations, de tous les labels qu'il pouvait rêver et qui fait partie des offices de la région qui bénéficient du classement maximum. Tout ça, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Tout ça, c'est le travail de toute l'équipe de l'office avec un directeur à sa tête. Alors, probablement que, d'ailleurs, lui-même, je suis persuadé, reconnaîtrait que sur certains sujets, ils n'ont pas été aussi performants qu'il l'attendait. Mais il ne faut pas chercher à instruire un procès en négatif ou pas. On est loin de la catastrophe. On continue de progresser. L'objectif, c'est évidemment que la nouvelle équipe maintienne cette dynamique. Le climat social, qui s'était tendu incontestablement, a l'air de s'améliorer. J'ai eu l'occasion d'échanger, pas plus tard que la semaine dernière, avec quelques agents qui m'ont dit qu'ils étaient très satisfaits des nouvelles orientations. Voilà. Et puis peut-être que dans 3 ou 4 ans, on verra de nouvelles difficultés surgir, et ainsi de suite. La vie d'un office, c'est comme la vie d'une entreprise, c'est que il y a des moments plus difficiles, il y a des difficultés plus importantes à certains moments. En tout cas, on ne peut en aucun cas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il suffirait de regarder les chiffres d'il y a 5 ou 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus depuis quand il était là, et les chiffres d'aujourd'hui pour voir que y a, dans la plupart des domaines, pour ne pas dire dans 7 ans, la plupart des domaines, les résultats n'ont plus rien à voir et l'office est passé d'une catégorie à une autre, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Mais vous avez le droit de ne pas partager mon propos.
Non, je suis désolé. Je n'ai pas fait un bilan catastrophique noir.
Ah bah, quand vous dites entre gris et noir...
J'ai dit gris et
gris foncé et noir.
Et des fois gris foncé dans certains domaines. Non, mais je suis plus nuancé que vous l'êtes. Et en tout cas, je ne caricature
tant
pas,
mieux,
moi.
Tant mieux.
Non, si je ne caricature pas. Et je dis qu'on était surpris, je ne suis pas le seul, de vos amis politiques qui étaient là, à cette réunion du conseil d'administration. Madame Candy, vous étiez là. Et donc, vous avez entendu les mêmes... non, mais parce que je cherchais le nom. Excusez-moi. Madame Lehoreux. On a entendu les mêmes choses... Même oui, mais... celui qui a été président de l'office de tourisme pendant quelques mois, qui était à côté de moi, et il était, il faisait bon, voilà, c'est-à-dire que il y a des choses, c'est-à-dire, c'est pour ça. Alors moi, ma question, elle était par rapport, il y a quand même des choses à améliorer, bien évidemment, si jamais on partage là-dessus, mais c'était la question 40-60, et voilà, il va falloir qu'il ait du temps. Pour s'occuper de
mais je pense que
voilà,
je pense
c'était ça mon propos.
Je pense qu'il est très motivé par la mission et que je suis intimement convaincu qu'il réussira. Ça, hein. Je vous propose de passer au vote sur ce rapport. Avis contraire, abstention, le rapport... Pardon, une abstention. Je vous propose de passer au rapport 22 et je donne la parole à Jacques Fromm. Alors, le rapport 22 et un certain nombre de rapports, enfin, d'annexes derrière, parce qu'il y a pas mal de pages.
Les 20 rapports qui font suite. Dans le cadre du club des partenaires de l'avenue de Champagne, 20 sociétés, dont la liste est jointe à votre rapport, souhaitent être partenaires des manifestations La Soirée Blanche du 14 juillet et Les Habits de Lumière en 2018. Vous trouverez dans les documents qui vous sont joints les conditions de partenariat liées à chaque entreprise. Je vous propose d'autoriser la signature des conventions de partenariat annexées au rapport en votre possession.
Il est intéressant d'avoir des partenaires mobilisés, investis à nos côtés, parce que d'abord, ils contribuent par leur financement au soutien de ces manifestations, et c'est aussi la preuve qu'ils se ressentent tous fiers de ces manifestations et désireux de participer à leur développement.
Alors, cette année, nous avons le plaisir d'accueillir deux nouveaux partenaires, l'Oxam et le Réveil de la Marne, l'un qui intègre les partenaires associés et un autre en tant que mécène.
Merci. Pas de questions, pas d'opposition. Le rapport est adopté. Rapport 24, Christine non,
23,
Mazzi.
23.
23, ah, bah, d'accord, pardon. Oui, moi j'ai des jours à rapport d'avance pour ne pas être pris au dépourvu. Jacques.
Dans le cadre de la Champagne, en fait, la ville d'Épernay souhaite pouvoir disposer de locaux avenue de Champagne afin d'organiser des concerts. La maison Boiselle accepte de mettre à disposition la cour du 46 de l'avenue de Champagne, la maison Paul Roger, la cour du 32 de l'avenue de Champagne, et le Champagne Michel Maillard accepte de mettre à disposition la cour et le rez-de-chaussée du 64 avenue de Champagne. Je vous propose d'autoriser la signature des conventions de partenariat annexées au rapport en votre possession.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons à Christine Mazzi, rapport 24.
Il s'agit du rapport annuel de la fourrière automobile. Je vous propose de prendre acte du rapport annuel de délégation de services publics qui a également été soumis à la commission consultative des services publics le 12 juin 2018. Il ressort de ce rapport que 153 véhicules ont été concernés par la fourrière automobile, dont 111 ont été restitués et 42 qui n'ont pas fait l'objet de restitution ont été détruits. Les recettes globales au titre de l'année 2017 de la fourrière s'élèvent donc à 18 594,24 € pour le délégataire et la redevance perçue par la ville à 555 €.
Merci. Des questions particulières ? Pas de questions. Je me rends compte que j'ai oublié de proclamer les résultats pour le CCAS tout à l'heure. Nous avions 35 votants, ont obtenu la majorité municipale 30 voix, Épernay Avenir 4 voix et un bulletin blanc, ce qui fait qu'à la première répartition, la majorité a eu 5 sièges. Au calcul des restes, c'est la liste Épernay Avenir qui décroche un siège. Donc on reste conforme à ce qui était prévu antérieurement, à ce qui existait antérieurement. Comment ? Donc je vous propose de mettre au vote, pardonnez-moi, le rapport sur la fourrière. Avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 25, logiquement, et c'est Christine Mazzi.
Je vous propose de présenter les rapports 25 et 26 en même temps, puisqu'il s'agit dans les deux cas de groupements de commandes. Donc je vous propose de créer des groupements de commandes entre, dans un premier temps, la ville d'Épernay, le CCAS, et la communauté d'Aglo ainsi que certaines communes, pour la fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire, et un autre groupement de commandes entre la ville d'Épernay et la communauté d'agglomération, et ce groupement de commandes concerne l'achat de prestations de sécurité et de gardiennage. Il convient donc de formaliser ces deux groupements de commandes par la conclusion de conventions qui vous sont fournies en annexe.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention.
Oui, je voulais savoir, donc, j'ai vu un coup le restaurant scolaire fonctionner. Il y avait des barquettes en plastique, on n'en a déjà pas. Est-ce qu'on utilise encore ce genre de barquettes en plastique ? Est-ce que vous savez que le plastique chauffé peut entraîner certaines maladies chez les enfants ? Ça fait comme des perturbateurs endocriniens. Donc, je voulais savoir si c'était complètement banni, si on pouvait le mettre dans ces bancs de commande.
Jonathan.
C'est en effet une préoccupation qu'on a, et j'en ai eu une, Magali n'est pas là, mais on s'est vu lundi matin pour commencer à questionner API sur le développement durable en général, notamment la question des barquettes en plastique qui a été évoquée. Aujourd'hui, ce sont encore des barquettes en plastique. Il avait été évoqué des barquettes en amidon de maïs, par exemple, puisqu'on a une production locale de cette barquette. Alors, il y a une difficulté technique apparemment qui est survenue lors de leur test chez API Restauration, c'est que ces barquettes sont poreuses et ne tiennent pas à la sauce, etc., une fois qu'elles sont chauffées. Donc, ils s'étaient évacués. Donc, on est en train de voir comment on peut améliorer ce processus, ce process notamment. Et j'ai demandé au responsable du service développement durable qui voit dans d'autres villes qui ont peut-être adopté ce système, voir quel système, si ça marche dans d'autres villes, s'il y a un amidon de maïs ou autre fécule de pommes de terre, je ne sais pas, qui servent pour fabriquer les barquettes. Et on regarde ça de près. Et ça permettra, si on trouve des résultats concluants, d'en informer API et de le mettre, pourquoi pas, au prochain cahier des charges, si on voit que c'est possible de le faire. Aujourd'hui, techniquement, pardon, c'est impossible, d'après ce que API nous a rapporté dans ses conclusions. On prospecte pour améliorer la situation et aller plus loin dans ces pratiques-là.
Quand il est chauffé, il y a une migration de molécules chimiques et donc c'est certainement dangereux. Et puis en plus, au niveau environnement, planète, on trouve des plastiques partout, comme vous le savez, c'est une menace.
Oui, c'est une préoccupation qu'on a, mais dès que j'ai des informations, je vous le donnerai. Aujourd'hui, on ne les a pas, mais on s'est vu lundi matin avec Magali. Pourquoi pas. Mais ça demande. Après, on a une difficulté derrière. C'est pas tant le coût.
Le poids.
C'est derrière. Après, il faut nettoyage. Et comme nos personnels de restauration commencent à 5h du matin pour certaines d'ailleurs, le fait de nettoyer plat derrière allongerait l'amplitude horaire et ne serait pas compatible. Après, il faut voir. Et parce qu'une fois que c'est lavé, ça repart là-bas à la cuisine centrale. à Reims, et eux doivent le relaver encore une fois, puisqu'ils ont fait un transport dans un camion, et il faut qu'ils relavent le matériel une fois arrivé, parce qu'il y a des conditions sanitaires à respecter. Donc est-ce que laver deux fois un récipient est plus écologique que de jeter? C'est un bilan carbone à regarder de près, mais en tout cas...
Moi, je pense que les choses évolueront très vite en la matière et qu'on va trouver un matériau
adapté.
Pas d'autres questions? Avis contraire? Abstention? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 27. Christine Mazzi.
Alors, il vous est proposé d'autoriser la signature d'un avenant à la convention de service commun communication. En effet, le recrutement d'un photographe vidéaste communautaire qui sera mis à disposition de la ville à raison d'un demi-équivalent temps plein conduit à contractualiser un avenant numéro 1 à la convention du 28 décembre 2017. Cet avenant modifie les articles 2 qui concernent la composition du service et l'article 4 qui concerne les modalités de remboursement.
Merci. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 28 qui concerne le tableau des effectifs ville et des emplois permanents.
Donc, comme il est de coutume, nous allons voir la modification du tableau des effectifs puisque suite à la CAP, la commission administrative paritaire du 6 juin, il nous faut procéder aux avancements de grades et en tout cas ouvrir les grades concernés. Donc, cela va permettre de créer un poste d'agent social principal de première classe à temps complet et de créer également tous les grades qui permettent de procéder aux avancements des agents promus à l'issue de cette CAP.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport suivant, Christine Mazzi.
Dans le cadre de dispositif PEC Parcours Emploi Compétences, je vous propose de recruter un agent de médiation, un agent d'entretien des espaces verts, un secrétaire pour le service réglementation et un agent d'entretien polyvalent pour le stade. Et autoriser par la même le maire ou son représentant à signer les conventions et tout document s'y rapportant avec Pôle emploi, la mission locale et le conseil départemental.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 30, Christine Mazzi.
Je vous propose, afin de répondre aux obligations du règlement général sur la protection des données, dit RGPD, dont vous avez tous entendu parler, qui est entré en vigueur le 25 mai dernier, d'adhérer au service RGPD du centre de gestion de la Meurthe-et-Moselle. Le coût de cette mission, dont le détail est inscrit dans le projet de convention en votre possession, est estimé à 478 € par mois, soit 5 736 € par an.
Alors, pourquoi la Meurthe-et-Moselle? C'est simplement parce qu'ils ont développé un service.
Ils ont développé un service. Donc, le centre de gestion 54 a développé un service auquel adhère le centre de gestion 51 et auquel nous allons adhérer, nous, par le biais d'une convention.
Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 31, Christine.
Suite à la modification des rythmes scolaires en septembre prochain, il vous est proposé d'appliquer à partir du 1er septembre les forfaits de rémunération des personnels contractuels recrutés dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, selon le tableau qui est joint à votre rapport. Effectivement, auparavant, il y avait des mercredis loisirs par demi-journée, donc il y avait un forfait demi-journée. Avec la modification des rythmes scolaires, ce forfait demi-journée n'a plus lieu d'être, donc il s'agit uniquement de forfaits journée, en fonction des diplômes des agents.
Merci. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport concernant le tarif des mercredis loisirs. Astrid Tussaud.
Merci, Monsieur le Maire. Suite à la modification des rythmes scolaires à compter de la rentrée 2018-2019, le mercredi matin ne sera plus un temps scolaire et redeviendra un temps extrascolaire. Il est donc nécessaire de revoir les tarifs des mercredis loisirs qui seront proposés aux familles. Je vous propose de fixer les tarifs de la participation des familles suivant le tableau annexé à votre rapport.
Merci pour ce rapport. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant concernant les amis du Chalet de la Canière. Christine Mazzi.
Je vous invite à renouveler les conventions d'objectifs et de moyens avec, d'une part, l'association Les Amis du Chalet de la Canière, qui comporte également la mise à disposition du chalet et de ses dépendances, et d'autre part, avec les associations sportives, le Réveil d'Épernay, le Racing Club d'Épernay-Champagne, le Racing Club Épernay Handball, le Racing Club Épernay Volleyball et le Rugby Épernay-Champagne. Les modalités de ces partenariats sont détaillées dans le rapport en votre possession.
Merci. Des questions?
Oui.
Oui, ce n'est pas une question. Voilà, il y a quelques années, j'ai utilisé le terme « gestion au bon père de famille ». C'est l'article 6 aujourd'hui noté ici avec le chalet de l'Arcanière. Monsieur Moitié, votre premier adjoint, m'a qualifié de ringard, que c'était on n'utilisait plus ce style, etc., etc. J'en passe beaucoup. Et maintenant, c'est lui, dans la commission animation et attractivité, qui a entériné ce texte, qui l'emploie. Alors, je voulais savoir sa réaction.
Il n'est pas là ce soir,
il n'est pas là.
Mais une gestion au bon père de famille est encore une utilisation courante.
Bon, bah, j'aime, vous lui direz. Ouais, j'aime vous l'entendre dire.
Je pense qu'il le sait. Hein. pas d'opposition, pas d'abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport concernant les conventions d'objectifs et de moyens avec un certain nombre d'associations sportives. Christine.
Arcanière et les associations en même temps.
Ah, ben moi j'ai
4-1 et 4-2.
C'est à Christian.
Comment ?
C'est les médiathèques, là,
maintenant. Ah, tout a été passé ? Ah, d'accord, j'avais pas compris ça.
4-1 et 4-2 ont été passés
donc
ensemble.
Donc, on arrive au rapport. Oui, la numérotation est particulière. Donc, Christian Demangin pour la modification du règlement intérieur des médiathèques. J'étais en retard d'un train, cette fois.
Le règlement municipal du réseau de lecture publique a été édicté en 2010. Certaines dispositions de ce règlement sont devenues obsolètes et ne correspondent plus aux nécessités de service. En particulier, par exemple, le nom de Simone Veil n'est pas indiqué et une vingtaine de détails que vous trouvez dans le dossier. Il convient donc de modifier ce règlement intérieur. Je vous propose donc d'adopter le nouveau règlement annexé en rapport à votre possession.
Merci. Pas d'opposition sur ce rapport, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec une convention de mécénat, Christian Demangin.
Trois conventions de mécénat, les trois conventions 4, 4, 5 et 6. 4, il s'agit de la société Perrier-Jouette qui souhaite s'associer au projet dans le cadre de la mise en œuvre d'une action de mécénat financier à hauteur de 250 000 euros concernant la restauration du Grand Salon. 4-5, c'est la société Maison Burtin qui souhaite également s'associer au projet et s'engage à verser la somme de 150 000 euros concernant la réalisation de la salle consacrée aux vendanges et au pressurage. Et la 4-6, c'est la société Champagne Jacquino et Fils qui s'associe au projet et s'engage à verser une somme de 5 000 euros.
Merci, ce sont des bonnes nouvelles. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons à la convention de partenariat entre la ville d'Épernay et Vinotilus dans le cadre du festival Off Voile à l'été.
En effet, dans le cadre du festival Voile à l'été, l'agence de voyage Vinotilus et le Crédit Mutuel d'Épernay souhaitent être partenaires. Donc, je vous propose d'approuver les conventions à intervenir annexées à votre rapport.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Nous poursuivons. Toujours Christian Demangin.
Et c'est dans le cadre des Journées européennes du patrimoine ainsi que dans les histoires d'un soir que la maison de champagne Lecomte, père et fils, souhaite s'associer sous forme d'un mécénat en nature, c'est-à-dire en bouteille de champagne.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5.1, lancement du programme d'action Cœur de Ville. Mes chers collègues, la ville d'Épernay, en lien avec la communauté d'agglomération, figure parmi les 222 villes moyennes retenues après appel à projet pour le programme Action Cœur de Ville, dont les objectifs, les enjeux et les différentes phases sont détaillés dans le rapport en votre possession. Je vous propose, pour mener à bien ce projet pluriannuel, de désigner à main levée 4 représentants appelés à siéger au comité de projet, de m'autoriser à procéder au recrutement d'un chef de projet et à solliciter son financement à hauteur de 50% par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ainsi qu'à signer la convention cadre pluriannuelle à intervenir. Au titre des 4 représentants, je vous propose 3 postes pour la majorité, Jonathan Rodriguez, Anne-Marie Legras et Jacques Fromme. Pour le quatrième, je laisse les différents courants de l'opposition de proposer un ou plusieurs candidats. Monsieur Auger.
La candidature de William Richard.
Y a-t-il d'autres candidats ? Pas d'autres candidats. Donc, je vous propose de voter pour Jonathan Rodriguez, Anne-Marie Legras, Jacques Fromm et William Richard. Pardon. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. Jonathan Rodriguez.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous invite à approuver la convention désignant la communauté d'agglomération comme maître d'ouvrage unique pour des travaux de renforcement d'un tronçon du réseau de distribution d'eau potable qui est situé sous l'avenue de Champagne et qui doit permettre aussi d'alimenter une borne à incendie. Donc, ce sera l'agglomération qui sera chargée techniquement, financièrement de ce projet et il y a une répartition financière qui est prévue.
Merci. Des questions ? Oui.
Problème à Épernay comme dans certaines autres villes, il n'y a pas de séparation entre les réseaux d'eau usée et les réseaux d'eau pluviale. Donc ça, c'est un problème écologique important. Et monsieur Rodriguez, vous pourriez vous en saisir. Oui, primordial.
Je pense que Daniel Maire est un expert en la matière.
C'est un problème sans en être un. Il est évident que sur le centre-ville en particulier, on ne va pas séparer les eaux usées des eaux pluviales. Les eaux pluviales qui sont dans les caniveaux vont directement au milieu naturel. Les eaux de ruissellement des maisons vont dans le réseau unique. C'est la différence entre les systèmes unitaires et les systèmes séparatifs. Il est évident que si on fait des travaux neufs, je pense à Bernon, tout a été fait en séparatif, dans tous les nouveaux quartiers, jusqu'aux exutoires qui vont dans les stations d'épuration. Mais sur le centre-ville, par exemple, c'est inimaginable et utopique. Et à quel frais pour les riverains de le faire ? Si sur une maison qui vaut 100 000 euros, il faut remettre 100 000 euros pour réussir à séparer les eaux pour le contribuable, c'est pas jouable.
La pollution, ça va directement à la rivière.
Non, à la station d'épuration.
Il y a un petit crochet par la station d'épuration qui n'est pas neutre.
C'est le problème des réseaux séparatifs ou unitaires.
Jonathan.
Oui, c'est vrai qu'il y a des dizaines d'années d'histoire de collecte des eaux. Pour rappel, la rue Jean Jaurès, elle sera en réseau séparatif entre le pluvial et les réseaux d'eau usée. Et puis, avec le PLU qui va être révisé et pour les nouvelles constructions, il sera évidemment prévu une récupération de l'eau à la parcelle au maximum. Ce sera obligatoire dans les permis de construire qu'on récupère soit l'eau pour l'infiltration à la parcelle, soit une récupération de l'eau de pluie pour alimenter des toilettes ou autre chose. Mais en tout cas, maintenant, les objectifs d'urbanisme, c'est d'absorber à la parcelle les eaux pluviales dans les nouveaux quartiers ou pour les nouvelles constructions.
Merci. Nous passons à avis contraire. Abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. Anne-Marie Legras.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose de renouveler le bail de location du parking au profit de la société Pasturale. Les conditions de cette location, consenties sans discontinuer depuis le 1er juillet 1997, sont détaillées dans le projet de bail qui vous a été adressé.
Merci. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 6 concernant le bail commercial avec l'association Rugby Épernay Club. Je crois d'ailleurs que c'est Rugby Épernay Champagne, mais plutôt que Rugby Épernay Club. L'association Rugby Épernay Champagne occupe depuis plusieurs années le bâtiment situé rue de Lorraine où elle exerce son activité de bar-restaurant sans payer de loyer à la ville d'Épernay. Aussi, il vous est proposé de régulariser la situation en autorisant la signature d'un bail commercial. C'est une histoire assez ancienne, effectivement, ça doit faire une quinzaine ou une vingtaine d'années que ce bar s'est installé dans un ancien local qui abritait également à l'époque le tennis club d'Épernay-Bernon. Et d'ailleurs, cette activité n'a cessé de se développer. Le club a pu embaucher plusieurs salariés. Et aujourd'hui, le club est contraint de séparer ses activités. Les services fiscaux lui ont demandé d'avoir d'un côté une activité commerciale, de l'autre côté une activité sportive. Donc, il va falloir que le club cède son bail commercial. Encore faut-il qu'il existe. Et c'est la raison pour laquelle ce rapport... et vous est présenté cette activité commerciale. Un certain nombre d'entre vous connaissent cet établissement qui a un certain succès, il faut le reconnaître, mais effectivement la gestion commune d'un équipement à caractère commercial et d'un club sportif semble poser des problèmes
aux services fiscaux qui demandent impérativement à ce qu'il y ait séparation des activités, même si le club pourra rester l'un des actionnaires de la société commerciale en question. Donc, une phase d'étude est engagée, d'une part, avec l'expert comptable du club, d'autre part, avec un expert qui a été désigné par la Cour d'appel pour identifier réellement ce qui ressort à l'intérieur du club des activités commerciales, de ce qui est des activités plus traditionnelles d'un club sportif. Et les domaines ont également été saisis et nous devrions avoir à la rentrée les évaluations nécessaires qui nous permettront évidemment d'ajuster le cas échéant ce rapport. Et vous serez de toute manière saisi le moment venu de ce sujet. Y a-t-il des questions sur ce rapport ?
Monsieur Angers, pardon.
Oui, simplement, je voulais savoir si vous savez si les éléments que vous venez d'apporter à notre connaissance ont une quelconque relation avec la sanction disciplinaire qu'a reçu le club, je crois, au cours de la saison dernière, où ils ont perdu une dizaine de points sur tapis vert pour justement des questions de tenue financière de l'association.
Pas directement. Il y a eu un défaut de présentation des comptes en temps, dans le temps imparti, mais à la décharge du club, sa situation est sans doute unique. Je ne connais pas, en ce qui me concerne, des clubs amateurs qui gèrent une activité commerciale comme le club le fait depuis des années. Les clubs professionnels le font parfois, les clubs amateurs ne le font jamais. Et c'est vrai que nous avons entrepris un travail d'explication auprès de la DNACG de la Fédération française de rugby pour démontrer qu'il y a bien une spécificité dans ce club. Le club a, comme ça arrive, des dettes d'un côté, il a des actifs de l'autre. Sauf qu'aujourd'hui, ces actifs ne sont pas reconnus parce qu'ils sont, ils sont dans le club, noyés dans le club. Donc il y a nécessité absolument de faire apparaître dans le club ce qui ressort de l'activité commerciale, qui a donc une valeur commerciale, une valeur d'actif, et d'un autre côté, ce qui ressort du club sportif, qui lui n'a comme actif que des jeux de maillots, des ballons, des engins pour les mêlées, etc. Donc la réalité du club, c'est qu'elle est effectivement, et je pense que ça a échappé aux dirigeants de la fédération, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'autres clubs amateurs qui soient dans cette situation. Le chiffre d'affaires de mémoire du club et du club house, c'est comme ça qu'on l'appelle, est supérieur à 220 ou 230 000 euros. Il a des salariés, ce qui n'arrive jamais dans un club amateur. Donc, on est en train de travailler avec les dirigeants du club pour officialiser à la fois cette distinction entre une activité commerciale et le club sportif. On est en train aussi de faire en sorte que, et les dirigeants du club y travaillent, qu'il n'y ait pas demain scission entre les deux, au sens où, si demain le club house du rugby était géré par une société commerciale sans intérêt pour le rugby, évidemment, ce serait affaiblir le club de rugby à côté. Donc, il faut très certainement qu'une entreprise soit créée pour gérer le club house et que le club soit actionnaire de cette entreprise avec d'autres actionnaires privés, ce qui conservera un lien capitalistique, on va dire, entre les deux structures et ce qui permettra toujours au club de rugby de bénéficier des apports du club house parce qu'évidemment, quand le club house a de l'activité, il en fait profiter le club et c'est autant de financement qu'il n'a pas à aller chercher à l'extérieur. Donc c'est un rapport sur lequel on reviendra évidemment parce que là c'est le début d'un processus et on sera amené très certainement à redélibérer dessus en septembre ou en octobre. Pas d'autres questions,
si. Monsieur. Deux points donc. Cette convention donc part à partir du 1er juin 2016, c'est ça, rétroactive. Et puis le second point, donc, il n'y aura pas d'aménagement dans le secteur.
Ça, c'est un point sur lequel on a informé les dirigeants du club depuis longtemps, puisque il est prévu dans notre projet municipal, à terme, de récupérer ces terrains. Le bâtiment dans lequel est le club aujourd'hui est un bâtiment qui est totalement vétuste. Il a servi, c'est un préfabriqué, en quelque sorte, qui a servi pendant des dizaines d'années. Et il est clair que nous avons là un potentiel foncier qui aurait tout intérêt à être mieux utilisé par la ville parce qu'il y a le club house lui-même et puis il y a les anciens terrains de tennis qu'on aperçoit encore qui sont plus en état, qui forment une surface aménageable de plus de 4000 m². Donc évidemment, nous avions fait la proposition dans notre projet d'urbaniser cette zone-là, ne serait-ce que pour transférer la crèche Tom Pouce qui est dans des bâtiments qui deviennent vétustes qui sont situés à l'allée du Vercors plutôt que de refaire ces bâtiments qui deviennent vétustes L'idée, ce serait de transférer la crèche à peu près en lieu et place du clubhouse, d'intégrer ça dans un programme immobilier, ce qui fait que ça allégerait la charge de la ville, puisque dans le cadre du projet immobilier, ben, le porteur de projet construirait des logements, construirait une crèche, ce qui impliquera qu'on fasse déménager le clubhouse de rugby, qui cherche actuellement des solutions. Parmi ces solutions, il y a deux solutions. Une solution en ville, mais il faut acheter un fonds de commerce le cas échéant. L'autre solution consisterait à regrouper l'activité clubhouse du club de rugby au terrain de rugby pour que le dimanche, notamment, il ne soit pas obligé de fermer le clubhouse pour ouvrir une buvette. Et Dieu sait que la buvette rapporte dans les clubs sportifs, pas que de l'alcool, mais aussi de l'alcool. Et l'idée, ce serait à ce moment-là d'essayer de voir si une solution pourrait être trouvée pour qu'un local soit aménagé au stade de rugby, moyennant évidemment paiement d'un loyer, de manière à ce que l'activité commerciale, tout en étant distincte du club juridiquement parlant, puisse continuer à être au service du développement du rugby à Épernay. Donc le rapport, enfin, la situation est assez compliquée parce qu'effectivement, ce club a développé cette activité commerciale depuis 15 ou 20 ans sans trop se soucier des aspects juridiques. Aujourd'hui, ils sont un peu rattrapés par la patrouille et donc il faut remettre en ordre tout ça pour qu'il y ait bien une clarté entre les comptes commerciaux d'un côté et les comptes associatifs de l'autre. Et ça s'inscrit dans ce processus. Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec il ne doit plus en rester beaucoup. Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal, c'est l'article 2122-22. Avez-vous, mes chers collègues, des questions particulières sur ce sujet ? On a fait figurer dans ce rapport les questions qui avaient été posées la fois dernière et pour lesquelles des réponses n'avaient pas pu être apportées. Je vous écoute.
Oui, simplement concernant la passerelle. Donc, est-ce que c'est la SNCF qui est la plus apte à faire cette étude ?
Alors, la difficulté qu'on a avec la SNCF, c'est qu'à partir du moment où on surplombe le domaine public ferroviaire, tout travaux surplombant le domaine public ferroviaire nécessite que la SNCF y soit associée.
Oui. Et des fondations au pied des quais, donc il n'y a que elle qui peut le faire.
Ouais. Dès qu'on intervient sur ce domaine public, pour des raisons de sécurité, et Dieu sait qu'en la matière, ils sont extrêmement raides, ça ne peut passer que par leur bureau d'études ou que par la SNCF elle-même. Il en sera de même pour la passerelle qui devrait être créée. Alors, elle sera pas, sa construction ne sera pas nécessairement confiée à la SNCF, mais il faudra que le projet soit agréé par la SNCF, parce qu'évidemment, le temps de la construction de cette passerelle, il y aura des perturbations sur la circulation des voies SNCF, et la SNCF doit pouvoir s'assurer que le projet il est non seulement viable, mais solide quasiment éternellement, pour s'assurer qu'un jour, il n'y ait pas une plaque de béton qui tombe sur un train qui passe. Donc, c'est quand même des rapports que nous avons très étroits avec la SNCF sur ce genre de questions. D'autres questions, Monsieur Angers ?
Oui, non, moi, j'ai simplement une remarque par rapport à la décision numéro 26. C'est très bien que vous ayez pris la décision de votre côté. Ça concerne des films mania. Ça m'a évité de voter contre, parce que je ne veux pas que mon nom soit associé de près ou de loin à des manifestations anti-développement durable.
Très bien. Je me semble vous avoir déjà entendu sur le sujet. D'autres questions ? Pas d'autres questions. Nous arrivons donc à la question diverse, qui concerne je crois que c'est M. Richard qui avait déjà poser une question orale la fois dernière concernant les travaux du palace.
Merci. Ma question, mon interrogation, elle portait suite à plusieurs interpellations et je pense que parmi nous, d'autres ont dû connaître la même chose par des sparnassiens qui s'interrogeaient et qui demandaient si il n'y avait pas possibilité de trouver une solution, bien sûr, provisoire pour tenir quelques projections de films en l'absence, bien sûr, du palace jusqu'à fin des travaux, ordinairement, au mois de décembre. Donc la question, elle était, peut-on regarder, étudier la faisabilité. Alors, il y en a qui disaient, oui, il y a le foyer du théâtre, d'autres, pourquoi pas la salle des fêtes, d'autres, pourquoi pas la... Mais d'avoir, parce qu'il y a quand même, il y avait toujours une fréquentation régulière, quels que soient les programmes, et je n'ai pas d'appréciation là-dessus, moi, mais c'était par rapport au fait qu'il n'y ait plus de cinéma du tout pendant 6-8 mois.
Alors,
et c'est quand même... Voilà. C'était tout. Et donc, je me fais l'interprète de celles et ceux qui se posaient la question.
Alors, pour tout vous dire, la question m'avait été posée par le directeur du théâtre, le directeur du cinéma, et j'avais spontanément donné mon accord pour que les projections se fassent au théâtre. Le problème, c'est que c'est très compliqué sur le plan technique. D'abord parce que le théâtre est un monument classé qui nécessite notamment la présence, pour les normes de sécurité, de 3 personnels de sécurité incendie, ce qui est le cas au théâtre, ce qui n'est pas le cas au cinéma. Donc évidemment, 3 personnes en plus auraient renchéri considérablement les charges du cinéma. Ensuite, parce qu'il y a un certain nombre de manifestations qui se déroulent, y compris pendant l'été, au théâtre. Il faut savoir que pour mettre à disposition leurs films, les producteurs exigent un certain nombre de représentations. Et on aurait été incapable de satisfaire, compte tenu des contraintes qu'on a par ailleurs, le Palace en lui donnant des créneaux qui lui auraient posé problème avec ses distributeurs. Alors, le choix qui a été fait par l'équipe du Palace, c'est de considérer qu'il valait mieux tout fermer et fermer moins longtemps que, comme ça avait été envisagé à un moment, fermer la moitié du cinéma, mais les travaux se seraient prolongés d'environ 3 mois, ce qui, évidemment, aurait aussi lassé les spectateurs sans leur offrir pendant ces 3 mois une qualité d'écoute optimale. La simple bonne raison que quand vous avez les travaux d'un côté dans la salle d'à côté et que pendant votre film vous entendez peut-être pas le marteau piqueur, mais en tout cas les entreprises qui interviennent et elles ont des obligations en termes de durée de chantier, c'était compliqué. Donc on a été amené à y renoncer, mais la piste a été évoquée très sérieusement avec Daniel Castaner et finalement d'un commun accord il a considéré que c'était beaucoup trop compliqué. Pour autant, les travaux avancent bien. Les travaux de démolition ont été extrêmement spectaculaires parce qu'on a pu découvrir l'ancien cinéma et le nouveau. Le nouveau n'a pas bougé. Enfin, le nouveau, celui qui avait été refait dans les années 2003-2004, c'est la partie la plus à gauche quand on est face au cinéma. Ce type de construction est très différent de l'ancien cinéma qui avait demeuré. Et il va de soi qu'actuellement, les fondations sont déjà, vont être coulées dans les jours qui viennent. Et très vite, le nouveau bâtiment va venir s'accoler à celui qui a une quinzaine d'années pour former un ensemble beaucoup plus attractif, avec une ouverture sur le boulevard de la Motte et une ouverture côté cours de la gare, sur le côté de l'allée qui mène à la gare, ce qui là aussi fera du cinéma un élément traversant où on pourra avoir des formules de restauration, un bar ou quelque chose qui permettra aussi d'être un lieu de rencontre et pas seulement un lieu où on patiente en attendant désespérément que son conjoint arrive en retard, ce qui nous est tous arrivé les uns et les autres. Voilà pour cette question. Il y avait une question de Marc Lefebvre également.
Oui, c'était une question suggestion. Donc, comme plusieurs élus du conseil municipal, notamment de l'opposition, je n'ai pas reçu d'invitation pour la cérémonie d'inauguration de la plaque de la médiathèque. Cela étant dû à un dysfonctionnement informatique, m'a-t-on dit. Pour éviter que cela ne se reproduise, je vous propose de faire parvenir par mail, toutes les semaines ou tous les 15 jours, l'agenda du maire en notifiant les invitations à destination des conseillers municipaux. Ainsi, personne ne sera oublié.
Alors, je dois d'abord m'excuser pour l'oubli et l'erreur qui a été faite sur l'inauguration de la médiathèque Simone Veil. C'est d'autant plus dommageable que je pense que tout le monde aurait évidemment salué ce geste, certes symbolique, mais que... Nous suivrons également dimanche l'entrée de Simone Veil et de son époux au Panthéon, ce qui est une excellente chose pour la France parce que c'est une femme absolument remarquable et qui a été un modèle pour de nombreuses générations de Français. Donc je m'excuse pour ce loupé, je suis absolument confus parce que évidemment ce n'était pas programmé. On va essayer de trouver une solution pour... on n'a pas non plus pleinement satisfaction parce qu'il y a parfois aussi sur l'agenda du maire des choses qui ne sont pas... totalement fiable. Donc on va essayer de trouver une formule pour améliorer l'information aux élus. On a aujourd'hui des tablettes, donc on peut imaginer aussi avoir un agenda vivant, c'est-à-dire qui
qui vous permettent d'avoir les rendez-vous municipaux principaux, avec évidemment l'identification de la personne qui représente le maire, les lieux de rendez-vous et les horaires, ce qui sera à mon avis beaucoup plus simple que ce qui existait jusqu'ici et qui, à mon sens, un peu dépassé. Donc je retiens votre proposition. Et puis, on reviendra vers vous à la rentrée pour vous faire des propositions en la matière.
Merci, monsieur le maire.
Je vous en prie. Le prochain conseil municipal sera le 25, c'est ça, 25 septembre. On avait envisagé d'en faire un au départ le 27 août, mais l'ordre du jour était extrêmement restreint. Et en plus, je pense qu'on sera en pleine vendange le 27 août si les choses continuent. Donc, je sais qu'il y aura un certain nombre de nos conseillers qui sont occupés par ailleurs. Donc, il n'y a pas de préjudice si on recule de 4 semaines ce conseil. Merci, bonne soirée.
À l'aglo, on les a jusqu'au mois de décembre. Pour
Et si vous voulez vous endormir, regardez le match de l'équipe de France aujourd'hui. D'accord. Je pense que vous trouverez vite le sommeil.
J'ai regardé sur le téléphone.